Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Bonsoir et bienvenue dans Les aventuriers de l'étrange. Ce soir, une émission spéciale consacrée à vos témoignages, une émission consacrée à vos témoignages qui a tardé à venir. C'est vrai, mais vous savez, avec le déménagement des locaux de Sud Radio, vous le savez depuis quelques temps maintenant, depuis quelques mois, nous sommes à la Bège. Eh bien voilà, tout est en place maintenant pour pouvoir réaliser les émissions avec vos témoignages qui vont être nombreux ce soir. À mes côtés pour les analyser, pour essayer de répondre à vos questions, évidemment, Renaud Évrard est toujours là, du GEMI, du groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International. Renaud, bonsoir.
Bonsoir.
Le bulletin de l'Institut Métapsychique est toujours en vente.
Oui, toujours.
Toujours.
Donc, on en a déjà beaucoup parlé,
oui,
à la radio.
Avec la Villa Carmen, notamment, les ectoplasmes. Et c'est sur donc demande, en s'inscrivant sur le site de l'IMI, on le commande et puis voilà, il arrive à la maison. Le prix c'est combien déjà, je ne m'en rappelle plus.
5 € plus les frais d'envoi. En fait.
Voilà, 5 € plus les frais d'envoi. Très bien. Pierre Mathias, webmaster du site psyland.org, est également à mes côtés. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Louis.
Le site Psyland qui se porte bien, avec toujours d'ailleurs en ligne les podcasts des aventuriers de l'étrange.
Toujours, bien sûr.
Bon.
Avec beaucoup de visites.
Ça marche bien, hein. C'est
ah,
vrai
ça
que
marche bien, oui.
Bah oui, les téléchargements continuent.
Et puis il y a des auditeurs qui sont hors de la zone d'écoute de Sud qui viennent écouter les émissions à travers
le
site.
Ouais, ouais. Aux États-Unis d'ailleurs.
Jusque aux États-Unis, Thaïlande, ça nous est arrivé.
Oui. C'est beaucoup d'auditeurs au Québec également.
Aussi, oui, tout
hein?
à fait. On
c'est,
a eu plusieurs retours.
Ouais, on a reçu des mails, une carte postale du Colorado. Également, enfin bref, voilà, on devient international, tout va bien.
Voilà, c'est de radio
internationale. Bien, c'est parti donc pour cette émission consacrée à vos témoignages. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, vous le savez, 0826 300 300, et me laisser vos coordonnées sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Sans plus tarder, nous allons accueillir notre premier témoignage. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Et Diane, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de venir nous rejoindre dans Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous commençons tous les deux par papoter. Ensuite, eh bien, Renaud Évrard et Pierre Mathias, qui sont en ma compagnie, vont nous rejoindre pour répondre à vos questions et essayer d'éclairer notre lanterne.
Mm-hmm.
Et je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent que si, comédienne, vous avez vécu des phénomènes un petit peu particuliers, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 et à me laisser vos coordonnées dans la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Alors, ma chère Ediane, pour commencer, on va faire un petit tour d'horizon de votre histoire.
Oui.
Vous êtes née en Algérie.
Voilà, Alger.
Voilà, Alger, à l'époque où l'Algérie était française.
Voilà, hein? Pendant la guerre d'Algérie. En fait.
Voilà. Alors, vous avez vécu plusieurs phénomènes. On va les prendre dans l'ordre chronologique, hein.
Ok.
Si vous le voulez bien. Premier phénomène que vous avez vécu, vous étiez petite, entre 5 et 8 ans, c'est ça?
Voilà, hein? À peu près. Voilà. Je pense que c'était entre 5 et 8 ans, oui.
Mm-hmm.
C'était en Algérie, dans la maison que nous habitions en Algérie.
Ouais.
Et je voyais régulièrement, enfin, quand je dis régulièrement, je peux pas dire si c'était tous les soirs, tous les deux soirs.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, c'était très souvent, voilà. En mémoire, il m'est resté le fait que c'était très souvent. Je voyais passer devant la porte de ma chambre. Alors, tout le monde dormait. Tout le
ouais.
monde dormait. Et
ouais.
moi, très souvent, je ne dormais pas. Il m'arrivait très souvent de me lever, de vérifier les portes, parce qu'on vivait quand même dans l'angoisse. Et j'avais acquis cette espèce d'instinct de vérifier les portes la nuit pendant que tout le monde dormait.
Ouais. Il faut préciser également que vous souffrez régulièrement d'insomnie. Hein?
Oui.
Voilà.
Ça s'est un petit peu arrangé depuis quelques temps quand même.
D'accord.
Voilà. Mais c'est vrai, j'ai tendance à l'insomnie.
D'accord.
Je dors très peu.
Mmh.
Et donc, je voyais donc passer devant la porte de ma chambre, la porte qui restait toujours ouverte. Donc, cette porte s'ouvrait sur un couloir.
Oui.
Et le couloir passait donc devant ma chambre et menait à la cuisine qui était à droite. Et donc, je voyais régulièrement une dame habillée de blanc. Enfin, elle avait une sorte de grande chemise de nuit blanche, quelque chose comme ça. Mmh. Elle avait une espèce de petit bonnet, de petit fichu blanc sur la tête. Et les cheveux qui dépassaient étaient pleins de petits rubans blancs. Mmh. Et donc, elle passait. Quelquefois, elle avait une bougie à la main. Elle passait donc devant la porte et elle rentrait dans la cuisine.
Donc vous, vous,
au moment... Moi, je la voyais passer depuis mon lit.
Voilà.
Je la voyais passer.
Dans l'encadrement de la porte de votre chambre qui était ouverte.
Dans l'encadrement de la porte, elle avait l'air d'entrer dans la cuisine, donc.
Ouais.
Bon, bien sûr, la plupart du temps, j'étais pétrifiée de peur et je disais rien. Je n'osais pas me lever. Une ou deux fois, j'ai eu le courage de me lever, d'aller dans la cuisine. Évidemment, il n'y avait personne dans la cuisine.
Ouais.
Voilà.
Est-ce qu'elle était âgée? Essayez de nous la décrire.
Ah, ça, je suis incapable de dire. Je ne vois pas son visage. Je vois sa silhouette passer parce que la porte était quand même en face de moi, mais assez loin, donc je voyais pas son visage.
Mm-hmm.
Je voyais une silhouette. Bon, d'après la silhouette, c'était une silhouette mince de dame. Maintenant, dire si elle était âgée ou pas, je suis incapable de le dire. Hein.
Oui.
Voilà.
Quand elle portait cette fameuse bougie, cette bougie était allumée?
Oui.
Mmh. Et la fréquence, même si vous étiez petite quand même, hein, c'était vous aviez entre 5 et 8 ans, hein,
voilà.
Rappelons-le à ce moment-là, la fréquence, c'était une fois par mois, une fois par semaine,
voilà,
ça, vous savez pas.
Je suis incapable
hein.
de le dire. Je sais que c'est très souvent, voilà. C'est,
mmh.
Je me souviens que c'est arrivé très souvent. Maintenant, combien de fois, je suis incapable de le dire.
Ouais.
Franchement, bon, c'était il y a longtemps, j'étais petite, et là, vraiment, je ne sais pas.
Oui. En avez-vous parlé à votre famille, à votre sœur?
Non,
votre...
non, j'en ai pas parlé. Bon, c'est vrai qu'on vivait dans un climat de terreur. On était dans un quartier d'Alger qui était très, très touché par les événements.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on vivait dans la peur, hein. Donc il y avait d'autres soucis, je veux dire, quand le jour arrivait, j'oubliais complètement tout ça, j'avais d'autres choses, même si j'étais très petite, j'avais déjà d'autres soucis.
Oui, j'imagine.
Voilà, donc c'est vrai que après je l'oubliais, cette dame. Et puis quand on est petit aussi, je pense que on s'habitue à une présence.
Mm-hmm.
Et finalement, je m'étais peut-être habituée à sa présence. Et peut-être que c'était un petit peu comme un secret que j'avais envie de garder aussi, hein, puisque je savais au fond de moi que j'étais la seule à la voir, donc c'était un petit peu ça aussi, donc j'en parlais pas. Non, j'en ai parlé longtemps après, mais à l'époque, non, j'en parlais pas.
Est-ce que cette apparition vous faisait peur ou vous rassurait?
Au début, elle m'a fait peur. Ensuite, c'est devenu comme une compagnie.
Ouais.
C'est-à-dire que quand je la voyais, après, ça me semblait tout à fait normal. Elle était là, elle faisait partie de la maison.
Mm-hmm.
Et je n'avais plus peur du tout. Elle faisait partie de la maison, voilà, tout simplement.
Ouais.
Mais à chaque fois que j'ai eu ce genre de phénomène, après, j'ai eu ce sentiment. Au début, j'avais peur. Et ensuite, c'était, voilà, le personnage faisait partie de ma vie et je m'y habituais très bien et je n'avais pas peur du tout.
Mmh. On va s'arrêter là et demander leur avis à Pierre et Renaud, sachant que vous avez vécu un autre phénomène d'apparition.
Ah ouais, oui.
Beaucoup plus tard, mais cette fois-ci, quand vous êtes arrivé en France.
Oui,
puisque vous avez quitté l'Algérie, comme tout le monde, en 1962.
Voilà.
Évidemment. Mmh. Et d'autres rêves prémonitoires sur lesquels on reviendra, bien entendu.
D'accord.
Alors, Renaud Évrard, un premier sentiment, parce que là, ça peut être, enfin, quand on a entre 5 et 8 ans, les phénomènes d'apparition peuvent être, comment dirais-je, peuvent être expliqués par le fait d'une imagination, de quelque chose comme ça. Est-ce que vous sentez que vous allez partir sur cette voie-là plutôt, Renaud Évrard?
Ben, c'est possible, c'est vrai que les adultes, quand ils entendent maintenant les enfants qui rapportent ce genre de phénomène, vont aller à dire que c'est leur imagination. Je pense qu'on pourra pas échanger. Et parfois, ça se vérifie vraiment, vu que il y a des phases de l'enfance où on crée des êtres invisibles qui sont nos compagnons imaginaires. Là, ça ressemble pas tellement à ça. Il y a très peu d'interactions. On voit pas vraiment la fonction de cette apparition par rapport à l'imagination d'un enfant. Bon, voilà, c'est assez étonnant comme ça. Moi, j'avais quelques questions, quelques précisions à demander.
Allez-y.
Si Eliane était seule dans la chambre, déjà pour commencer, et puis comment ce contexte de peur, enfin, est-ce qu'il était vraiment associé du début à la fin des phénomènes? Est-ce que d'autres personnes vivaient aussi comme ça, très, de façon peut-être paranormale aussi, ou peut-être irrationnelle, cette peur à ce moment-là, quoi, dans sa famille?
Non, pas du tout. Bon, c'est Ediane, c'est pas Eliane. Hein.
Oui, c'est Ediane. Ediane. Oui.
C'est pas grave. Non, en fait, je me rappelle plus au début de votre question.
Vous étiez seule dans la chambre, déjà.
Non, je partageais la chambre avec ma sœur. On a, jusqu'à très tard dans notre adolescence, on a toujours partagé la chambre.
Elle dormait paisiblement. Jamais rien vu.
Elle n'a rien entendu. Elle ne voyait rien. Et bon, les premières fois, c'est vrai que j'ai essayé de l'appeler, mais la première fois, j'étais tellement paralysée par la terreur, ce qui est ridicule d'ailleurs, parce que cette dame avait l'air tout à fait pacifique. Mais bon, je trouvais ça extraordinaire de voir cette dame passer comme ça.
Oui.
Et j'essayais d'appeler, mais quand on a très peur, on ouvre la bouche, on essaie de crier, mais il n'y a rien qui sort. Et donc, je n'ai pas réveillé ma sœur les premières fois. Et ensuite, je n'avais plus du tout envie de réveiller qui que ce soit. Je veux dire, je crois que j'avais l'impression que cette dame était à moi et que, et que j'étais très heureuse d'être la seule à la voir finalement. C'était un petit peu ça. Voilà. Mais donc, je veux dire, la peur est passée très vite, hein. Disons, les deux, trois premières fois, j'ai eu peur et puis après, non. Après, c'était devenu, quelqu'un qui habitait la maison comme nous, mais que tout le monde ne voyait pas, tout simplement.
Ouais.
D'accord. Et est-ce que cette maison, c'était la Villa Carmen ou...
La célèbre villa où il s'est produit des choses extraordinaires.
Non, c'était une maison normale où rien ne se passait apparemment. Tout le monde avait l'air normal. Dans ma famille, il se passait rien de surnaturel.
Dans quel quartier
On vivait au contraire d'une façon très lucide et très, je veux dire, c'était très...
Et très
banal.
On
n'avait pas le temps de rêver, quoi. On vit dans un climat où on n'avait pas le temps de rêver.
Est-ce que, là, je pose la question à Renaud Évrard. Renaud, est-ce que dans un climat, parce que là, on était en pleine guerre d'Algérie, surtout à Alger, la capitale, la tension était palpable, il y avait des crimes perpétrés dans la rue, des deux côtés. C'était vraiment une situation extrêmement dramatique. Est-ce que cette tension, ces drames peuvent provoquer chez un enfant, de manière inconsciente, comme ça, ce genre de phénomène?
Bon, on peut imaginer que justement, là, enfin, Eden en parle un peu plus, il y avait quand même, la peur est passée assez vite, il y avait une fonction comme ça de maison habitée, elle n'était pas seule dans la nuit, elle avait finalement une présence maternelle, féminine pour elle, et puis... c'est vrai que dans les états de stress comme ça en guerre, les apparitions sont il y a fréquemment des témoignages comme ça d'apparitions. Peut-être c'est vraiment des états qui nous font voir plein de choses, représenter, projeter un peu nos angoisses aussi à l'extérieur, et puis nous donner les moyens de nous rassurer d'une façon ou d'une autre. Mais là, c'est vrai que c'est quand même la nuit, c'est quand même sombre, c'est une silhouette quand même relativement lointaine, comme l'a dit Eliane. Bon,
enfin, lointaine, depuis son lit jusqu'à la porte de la chambre, donc 3 mètres, 4 mètres maximum, quoi. Hein, donc c'est pas si loin que ça, finalement.
Bon, d'accord, ok. Mais ce qui je trouve intéressant, c'est l'acceptation d'Eliane, puis l'acceptation culturelle. Je connais plusieurs personnes témoignant de phénomènes paranormaux dans le Maghreb, et pour eux, c'est déjà bien plus intégré à la culture.
Oui.
J'ai l'impression que c'est déjà quelque chose de facilitant. Même si là, elle ne cherche pas à en parler et à partager tout ça avec tout le monde, il n'y a pas un rejet. Et du coup, je pense que ce phénomène peut vivre d'une certaine façon pendant des années.
Oui. Alors, Ediane, vous avez vécu plusieurs autres phénomènes.
Oui, voilà. Donc, ensuite, nous sommes partis d'Algérie. Je n'ai plus jamais revu cette dame. Voilà.
Oui.
En France, ensuite, alors il est arrivé un truc, c'était dans un appartement que nous étions sur le point de quitter, et j'étais, je devais avoir 11 ans, je pense, et j'étais avec ma mère en train de préparer les affaires, et ma sœur était à la fenêtre, ma sœur qui avait 17-18 ans, par là,
ouais.
Était à la fenêtre, et elle discutait par la fenêtre avec son petit copain qui était aussi le petit voisin.
Mm-hmm. De balcon à balcon, d'accord, de balcon à balcon, quoi.
Voilà, de balcon à balcon, donc elle était chez elle, chez nous, lui était chez lui, et ils se parlaient par la fenêtre. Bon.
Voilà. Mm-hmm.
Et tout à coup, je vois rentrer dans l'appartement, je ne sais pas comment, parce que je n'ai pas vu s'ouvrir la porte. Hein.
Mm-hmm.
Je vois rentrer dans l'appartement ce garçon qui était à la fenêtre en train de parler avec ma sœur.
Alors attendez, résumons la situation pour que tout le monde comprenne bien.
C'est très compliqué. Hein.
Votre sœur, vous étiez avec votre mère en train de faire les cartons.
Voilà, on était
dans la pièce principale, dans
le salon, en train
dans
de ranger des affaires.
Voilà. Votre sœur était accoudée au balcon, donc en train de discuter.
Voilà,
avec son petit ami qui était lui accoudé au balcon chez lui, le voisin quoi, juste à côté.
Voilà, le voisin, voilà.
Et pendant que elle est en train de discuter avec son petit copain,
je vois le petit copain rentrer dans l'appartement.
Voilà, alors qu'il était en train de discuter
alors
sur le balcon.
Alors qu'il était sur le balcon en train de discuter, voilà. Donc bien sûr, là j'étais un petit peu j'ai regardé, j'ai vu à la réaction de ma mère qu'elle avait vu quelqu'un aussi. Après elle l'a nié. Ma mère était très superstitieuse et ce genre de truc-là, il fallait pas en parler devant elle.
Mmh.
Mais on l'a vu vraiment rentrer et c'était bien lui. C'était vraiment lui. Et dans ma tête, je me suis dit, mais il est quand même culotté. Il rentre dans la maison comme ça. Comment est-ce qu'il est rentré puisque personne ne lui a ouvert la porte.
Ouais.
Et il a parcouru tout le couloir. Il s'est dirigé vers le fond de l'appartement. J'y suis allée.
Ouais.
Je n'ai vu personne. Il avait disparu. Je suis rentrée dans la chambre où était ma sœur à la fenêtre. Je me suis approchée de ma sœur et j'ai constaté qu'il était à sa fenêtre lui aussi et qu'ils étaient en train de parler tous les deux. Et là, j'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit... j'étais assez grande pour me dire est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai une hallucination? Qu'est-ce qui m'arrive?
Ah bah oui, j'imagine bien parce que là, il peut pas être deux endroits en même temps.
Là, c'était vraiment la quatrième dimension, quoi.
C'est-à-dire,
je viens de le voir dans l'appartement, il était à la fenêtre, qu'est-ce qui se passe, quoi. Bon, après, je me suis dit, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre que j'ai vu rentrer. Et puis non, il n'y a personne qui est rentré puisque je n'ai trouvé personne dans l'appartement en cherchant.
Ouais.
Donc, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu l'as vu aussi? Elle s'est énervée. Elle est venue toute rouge, elle m'a dit mais non, voilà, bon, et puis, bon, ma mère était une personne très spéciale avec qui on ne pouvait pas discuter, et donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit, voilà, j'ai eu une hallucination, c'est pas grave, ça va passer, bon, voilà.
Mais quand même, vous avez bien senti que votre mère avait
elle
vu
avait
quelque
vu.
Chose.
Ça, j'en suis persuadée, elle l'avait vu.
Ouais.
Elle l'avait vu.
Alors, Ediane. On fait une pause.
J'ai un petit détail à propos de cette histoire.
Ah oui, mais attendez, je sais bien, c'est pour ça. On fait une pause, on garde le suspense et on se retrouve dans quelques instants, d'accord?
D'accord.
Allez, à tout de suite.
À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Soirée spéciale témoignage dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec Pierre Massias, webmaster du site psyland.org, et puis Renaud Évrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International, et Ediane, première témoin, qui est en notre compagnie. Alors, Ediane, terminons cette histoire de votre sœur qui était accoudée au balcon en train de discuter avec le voisin qui se trouvait être son petit copain, et vous dans le salon en train de faire les cartons avec votre mère, vous avez vu ce petit copain arriver, traverser le salon, le couloir et partir dans le fond de l'appartement alors qu'il était en même temps en train de discuter sur le balcon avec votre sœur.
Exactement.
Et vous avez eu le fin mot de l'histoire que
plusieurs années plus tard, il n'y a pas très très longtemps. J'en ai reparlé avec ma sœur parce que on s'est mis à reparler de toutes ces histoires là, toutes ces phénomènes qui m'étaient arrivés.
Ouais.
Et donc je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles? Je lui ai rappelé cette histoire là. Je lui ai dit, je l'ai bien vu rentrer dans l'appartement pendant que tu parlais avec lui à la fenêtre. Et là, elle a été assez surprise, assez touchée. Elle m'a dit, mais je me souviens, je ne te l'ai jamais dit, je me souviens que Didier, à sa naissance, avait un frère jumeau qui est décédé.
Alors, ça...
Donc ils étaient nés jumeaux et l'un des deux est décédé.
Ouais. Et quelle a été votre réaction à ce moment-là?
J'ai trouvé ça presque normal. Non, je me suis dit, ben voilà, c'est ça. Bon, ben...
Voilà l'explication.
Voilà l'explication, quoi. Voilà.
Ouais.
J'en voyais pas d'autres. Hein.
Oui. Oui.
Voilà, moi, à l'époque, je ne savais pas du tout qu'il avait eu un frère. Je l'ai appris, il y a, je sais pas, il y a 5 ans à peu près, même pas. Il y a 3 ans, 4, 5 ans, je sais plus.
Oui, oui, oui. Voilà. Donc, vraiment, plusieurs années après avoir vécu ce phénomène.
Ah oui,
bah
oui, longtemps
évidemment.
Après, oui.
Ouais, ouais.
Oui, parce qu'à l'époque, j'étais petite, hein, quand même. J'avais 11 ans, oui, 11 ans à peu près, je pense.
Mmh, ouais. Pierre voilà. Macias, quelle est votre vision, votre analyse de cette situation pour le moins peu commune?
Je pense qu'on se trouve avec Ediane avec quelqu'un qui a une certaine sensibilité. Je pense que à Alger, la maison devait être certainement une vieille maison.
Oui, oui, mais très ancienne.
Très ancienne, avec un passé important, de longue
sûrement,
date.
Sûrement, je ne sais pas, mais c'était une vieille maison.
Oui.
Donc on peut imaginer une sensibilité qui vous fasse ressentir. L'activité dans la maison, l'activité historique de la maison.
Mm-hmm.
Dans les circonstances de l'époque, ça peut être, ça peut, je sais pas en fait. Je cherche à voir si ça peut être une aide quelconque pour une fillette de 8 ans. C'est pas impossible.
Une aide quelconque, qu'est-ce que vous entendez par une aide quelconque? Comme si une apparition venait pour rassurer cette petite fille qui ne dormait
voilà,
pas.
Voilà, peut-être pour rassurer. Je cherche cette notion-là. Bon, je la trouve pas vraiment. Je sais pas. Enfin, je la cherche de ce côté-là.
Ouais.
Bon, de base et surtout avec ce qui est arrivé ensuite avec le petit copain de votre sœur, je pense que vous devez avoir une certaine sensibilité. Alors de là à dire que vous avez vu un décédé, une manifestation de décédé, c'est peut-être aller un petit peu trop loin pour l'instant. Cela dit, vous pouvez avoir ce ressenti et l'exprimer de cette manière-là.
Ouais. C'est-à-dire qu'elle aurait eu une prémonition que son cerveau a transformé sous forme d'apparition de Didier. La prémonition qu'il a eu, une clairvoyance, c'est-à-dire c'est sur l'instant, hein, c'est
voilà.
Ça. Une clairvoyance comme quoi elle l'avait attrapé de manière inconsciente par quel canal on ne sait pas que Didier, il s'appelait Didier, hein, c'est ça. Hein
oui, c'est
voilà.
Ça. Oui.
Le petit copain de sa sœur avait eu un frère jumeau mort à la naissance.
Oui, ça peut être ça. Peut-être que les circonstances faisaient que, même les circonstances elles-mêmes, d'une part en Algérie pendant la guerre civile, donc situation de stress, d'autre part à la maison au moment du départ.
Situation de stress aussi.
Situation de stress en lui-même. Alors je ne sais pas comment vous viviez ce départ de la maison, mais en tout cas ça faisait un changement et on appréhende un peu, forcément un peu tout changement.
Oui. En fait, ce départ de la maison était un peu la conséquence du décès de mon frère qui était survenu presque un an avant.
Oui. Ouais, ouais.
D'accord, donc il y avait là aussi un sous-entendu, quelque chose à la base qui génère cette situation difficile à vivre.
Ouais.
D'où générateur, génératrice de situations particulières.
Mais donc vous n'êtes pas forcément pour la thèse de je me mets dans la tête des auditeurs auditrices qui nous écoutent, le frère jumeau décédé dès la naissance qui pourrait continuer à vivre de manière invisible à côté de son jumeau.
Eh bien disons c'est la notion de survivance. Quand on étudie ce genre de phénomène de manière scientifique, on a un certain nombre de règles. Et à l'heure actuelle, un parapsychologue, donc qui utilise la méthode scientifique pour aborder ce genre de problème, il établit un certain nombre d'hypothèses qu'il va essayer de vérifier.
Mais celle-là, c'est vraiment la dernière des dernières.
C'est la dernière.
Elle fait partie de la science-fiction
disons,
encore, quoi. Ouais.
Je vais pas dire de la science-fiction. Non, pourquoi pas? C'est envisageable au même titre que n'importe quelle autre hypothèse.
Ouais.
Mais de fait, on arrive à expliquer, à comprendre ce genre de phénomène sans aller jusqu'à la notion de survivance.
Ouais, d'accord. Moi, je trouve ça plus poétique. C'est finalement le frère jumeau a décidé de rester en liaison avec son frère, son jumeau. L'un est visible et l'autre pas.
Ah, ensuite on va.
Sauf pour certaines personnes qui ont comme Ediane, sorte de sensibilité comme ça qui fait que elle perçoit plus. Tiens, une question, Ediane, votre mère, est-ce qu'elle avait la même sensibilité que vous ou pas, à votre avis?
Ma mère?
Oui.
Bah, elle n'en parlait pas en tout cas, mais je pense que c'est quelqu'un qui avait aussi eu, qui avait vu certaines choses, mais elle ne voulait pas l'avouer. Enfin, c'est ce que j'ai toujours pensé. Maintenant, je ne sais pas. Bon, depuis, elle est décédée, donc. J'ai toujours pensé ça.
Et dans la famille, votre sœur, votre père n'avait pas cette sensibilité, non pas cette sensibilité, pas votre connaissance.
Non, ma sœur. Oh, si, ma sœur, oui. Ma sœur, oui, a vécu des choses très spéciales après la mort de son mari. Elle peut même affirmer qu'il s'est manifesté plusieurs fois.
Donc, vous deux, toutes les deux, là, vous avez cette sorte de sensibilité, comme dit Pierre Mathias.
Sûrement, je pense.
Renaud Évrard, que pensez-vous de mon hypothèse du jumeau décédé qui survit à côté de son frère? D'accord, merci Renaud.
Non, c'est pas, je dirais pas comme ça, quoi. Là, ce qu'on a, c'est un double du voisin, du copain, qui surgit alors que je sais pas, j'ai l'impression qu'Ediane pensait à ça, enfin, savait que sa sœur discutait avec son amoureux.
Oui, tout à fait.
Il y a peut-être un rapport de jalousie à ce moment-là, qui,
non, j'avais 11 ans, je pense pas que.
Ah, il était peut-être joli, ce voisin, non?
Je me souviens même plus comment il était.
Mais ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien comment Ediane, quand elle n'a pas d'explication, elle se dit, bon, je suis malade, j'ai une hallucination, ma mère qui est à côté de moi, bon, peut-être qu'elle l'a vue, mais enfin, j'en suis pas sûre. Et elle trouve son explication plus tard, et ça fait sens, et je pense que c'est ça qui est important, c'est que ça tienne et que ça ne crée pas d'angoisse, que ça prenne une signification. Là, on peut aussi rejoindre ce que dit Pierre sur une clairvoyance, peut-être de ce qui était le sujet de la conversation ou le sujet d'un trouble de ce voisin à ce moment-là, quoi. Donc finalement, ça rejoint ce qu'on appelait à l'époque les hallucinations télépathiques, c'est-à-dire hallucination, on va voir quelque chose à l'extérieur, une apparition, mais télépathique parce que elle a un rapport avec une information réelle qu'on ne connaît pas. Donc c'est un peu ce cas-là.
En tout cas, phénomène paranormal, il y a eu visiblement, et ce qu'il y a bien, comme le dit Renaud, Ediane, vous le vivez bien, vous, ça vous pose pas de problème particulier?
Non, ça m'en a pas posé. Je veux dire, j'y ai pensé très souvent à toutes ces choses qui me sont arrivées. Pendant plusieurs années, ça ne m'a pas vraiment gênée, mais j'avais envie de savoir quoi, ce qui s'était passé. Mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Je sais avec du recul que ce n'était pas de simples hallucinations. Je sais avec du recul qu'il s'est passé quelque chose, que c'était vrai.
Oui, que vous n'aviez pas, que vous n'étiez pas devenue folle ou imagination,
pas,
quelque chose
pas
comme
de
ça.
La déprime, c'était pas un truc comme ça. Pour moi, c'est vrai. J'en suis avec du recul maintenant, après y avoir pensé pendant plusieurs années, je sais que ça s'est vraiment passé. Voilà. Pour moi, ça a vraiment existé, de même que les choses qui ont suivi dans la maison où nous sommes allés habiter. Voilà.
Oui. Alors, justement, parlez-nous de ce nouvel appartement dans lequel vous êtes allé habiter, où vous avez vécu un phénomène d'apparition, parce que oui, c'est ça, c'est un phénomène d'apparition.
Là, j'ai vécu pas mal de phénomènes, en fait.
Mais assez particulier, peut-être un peu plus inquiétante. Vous avez appelé ça l'ombre, c'est ça?
Oui.
Racontez-nous.
En fait, voilà, on est arrivé dans cette maison. Donc, c'était une petite maison qui était au-dessus d'un magasin de meubles où mon père travaillait. Mon père était ébéniste. Donc, c'était l'appartement de fonction, en quelque sorte. Et dès qu'on est arrivé dans cet appartement, dans cette petite maison, je me suis sentie, je sais pas comment dire, bizarre. Voilà.
bizarre dans le sens inquiète, bizarre juste bizarre ou...
Bah, c'est-à-dire que voilà, quand le soir arrivait, quand la nuit arrivait, bon, que tout le monde était couché, que j'étais couchée moi-même, je sentais un malaise, en fait.
Oui.
Comme si, je sais pas comment expliquer ça? Comme si je savais qu'il allait se passer quelque chose, en fait. Et dès les premières nuits, je dirais pas la première nuit, mais dès les premières nuits, j'ai commencé d'abord par voir apparaître des mains qui me caressaient le visage.
Elles étaient visibles, réellement visibles ou juste
des
sensations?
Oui, elles étaient vraiment réellement visibles. Elles se détachaient, il y avait un petit meuble à côté de mon lit, le long du mur, il y avait des étagères comme ça.
Ouais.
Et en fait, les mains avaient l'air de sortir de ces étagères, elles se détachaient de là et elles venaient me caresser les cheveux, me caresser le visage.
Et vous les sentiez?
Ah, je les sentais. Je sentais, voilà, quand je dis étrange, voilà, quand je dis que je me sentais bizarre, c'est ça. Je sentais des présences vivantes, en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de vivant dans cette maison.
Ouais.
Et ces mains, je les sentais. Je sentais, ce que l'on ressent auprès d'un être humain, quoi. Je sentais vraiment ça. Et donc, au début, c'était ça. Je voyais des mains donc qui me caressaient le visage, des espèces de foulards, de tissus qui se baladaient autour de moi. Et ensuite, j'ai vu apparaître ce personnage que j'ai appelé l'ombre et qui m'a obsédé pendant longtemps et j'ai l'impression que cette ombre fait partie de ma vie, en fait. Alors là, j'ose en parler maintenant comme ça. Vous savez, pendant des années, j'ai pas osé en parler parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une dingue quand même. Hein.
Ouais.
Au début, j'ai eu très peur quand j'ai vu apparaître la première fois. En fait, on avait deux fenêtres qui faisaient un angle comme ça. Entre les deux fenêtres, il y avait une petite cheminée de briques rouges.
Oui.
Et donc, la nuit, tout le monde dormait. Moi, je ne dormais pas comme d'habitude. Et je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Et donc, je vois ce personnage. En fait, c'était l'ombre d'un homme très grand. Donc je ne voyais pas son visage, c'était une ombre en fait, hein. Qui se découpait d'après le dessin, ça faisait comme un homme très grand avec des grands cheveux. Et donc il venait vers moi, les bras tendus, et il venait jusqu'à moi, il m'enveloppait. Et quand il venait jusqu'à moi et qu'il m'enveloppait, j'avais vraiment la sensation qu'un être humain m'enveloppait. Je sentais une chaleur, je sentais une vie.
Oui.
C'était terrible, hein, les premières fois, ça a été horrible, hein. Alors, je me jetais sur ma sœur parce qu'on partageait aussi la même chambre à cette époque-là.
Ouais.
Je me suis jeté sur elle pour la réveiller, je hurlais comme une folle, enfin bref. Et comme pour la dame en Algérie, peu à peu, j'ai cessé d'avoir peur. Et cette ombre qui venait régulièrement dans ma chambre et qui venait vers moi, j'ai essayé de comprendre. Je me disais, cette façon de venir vers moi, les bras tendus comme ça, je me disais, il me dit quelque chose ou il me demande quelque chose. Il veut quelque chose, qu'est-ce qu'il veut?
Ouais.
Et en fait, après, mon souci, c'était ça, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passait, quoi. Parce que, je voyais bien que ça existait vraiment, que je n'ai... C'était pas une simple hallucination, j'étais pas folle, voilà, ça existait vraiment. Je le sentais, il était là.
Oui, oui, oui.
Voilà. Et dans cette maison, j'ai vu plein de trucs. D'ailleurs, je suis persuadée qu'il s'est passé des choses dans cette maison. Parce que une nuit, j'ai vu la chambre, c'était des tomates au sol. J'ai vu les tomates se soulever et des mains sortir de dessous les tomates. Et je dormais pas, hein. C'était pas des rêves, hein. Je voyais vraiment ce qui se passait dans la chambre.
Mais revenons, si vous le voulez bien, à cette ombre. Quand elle vous enlaçait, vous étiez allongé dans votre lit?
Ah oui.
Et elle venait donc...
C'est-à-dire, quand je le voyais, je m'asseyais sur mon lit,
ouais,
en fait. La plupart du temps, je me levais et j'essayais de me lever.
Ouais,
et je n'avais pas le temps de me lever, l'ombre m'entourait de ses bras, comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Et en même temps, au moment où il m'entourait de ses bras, il disparaissait comme s'il passait à travers moi, je ne sais pas, enfin, voilà.
Il s'évaporait, littéralement.
Voilà.
Ouais. Et ça a duré combien de temps?
Alors, ça a duré, on a vécu, je pense, à peu près, un peu plus de 5 ans dans cette maison, et ça a été très régulier pendant tout le temps où on a vécu dans cette maison.
Ouais.
Je dirais pas tous les soirs, mais très 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 souvent. Je veux dire, c'était devenu une habitude, quoi, voilà, l'ombre faisait partie. Et j'ai l'impression qu'il fait toujours partie de
cette maison.
De cette maison, j'y suis retournée il y a pas longtemps, j'y suis pas rentrée, parce que maintenant elle est habitée par une autre personne, j'ai pas osé...
Ouais.
J'y suis retournée 2-3 fois, j'ai fait le tour de la maison. oui, qu'il fait toujours partie de la maison et en même temps, quelque part, qu'il fait un petit peu partie de ma vie aussi, je sais pas. Il m'a laissé quelque chose, enfin, je ne sais pas.
Ouais.
Et mon grand regret, c'est de n'avoir jamais compris ce que voulait ce personnage, en fait.
Ouais.
J'ai l'impression que c'est un rendez-vous manqué, en quelque sorte, parce que j'ai pas su le comprendre, on s'est pas compris.
Eliane, une pause à nouveau et on se retrouve avec les analyses de Pierre Macias,
d'accord,
si vous le voulez bien, et de Renaud Evrard dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite.
Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit sur Sud Radio.
Soirée spéciale témoignage dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec le témoignage étonnant d'Ediane qui nous appelle de Nice d'ailleurs, qui est de la région niçoise. Alors, ma chère Ediane, tournons-nous vers Renaud Evrard pour écouter un petit peu ce qu'il a à dire sur cette aventure que vous avez vécue. Mon cher Renaud.
J'avais d'abord quelques petites questions, parce que vous avez dit que vous avez eu des contacts avec ses mains et avec cette ombre.
Oui.
Est-ce que c'était... Enfin, vous avez parlé qu'il y avait une sorte de chaleur, mais est-ce que c'était de la chaleur, la vraie chaleur, ou est-ce que ça pouvait être froid aussi par moment?
Non, c'était jamais froid.
Jamais.
C'était doux.
Doux.
Ça me faisait très peur au début, parce que, bon, ça fait peur, ce genre de choses. Mais en même temps, c'était pas... c'était pas morbide, c'était pas non, c'était doux.
C'était humain,
il y avait quelque chose d'humain.
Est-ce que c'était assez la pression que ça mettait sur votre épiderme, est-ce que c'était assez fort, enfin, ou est-ce que ça vous semblait comme caressé, comme
Non, c'était vraiment très léger. C'était très léger et au moment où ça me touchait ou ça me caressait, ça disparaissait en même temps, comme si ça s'évaporait, enfin, comme si je passais à travers ou comme si ça passait à travers moi.
Et donc, vous dites qu'elle apparaît à un endroit de la pièce, qu'elle se déplace, cette ombre, les mains, les bras tendus. En fait,
ouais.
Elle a combien de mètres à faire? Vous la voyez pendant combien de temps?
Alors donc, elle apparaissait toujours au même endroit, entre ces deux fenêtres, devant la petite cheminée. Et mon lit était en face, donc à l'opposé de la pièce. Oh, elle n'avait pas beaucoup de pas à faire. Hein. Une chambre, c'est pas immense.
Trois pas, deux, trois pas.
Oh oui, 3-4 pas, disons.
3-4 pas, d'accord.
Et est-ce qu'elle était... c'était une ombre très obscure qui se fondait dans la pièce, ou est-ce qu'elle était blanche, ou elle était facile?
Non, en fait, moi, je l'ai appelée l'ombre parce que je n'ai jamais vu son visage. Voilà, c'était pas net, et disons qu'on ne voyait pas les traits. Mais c'était une carrure d'un homme. C'était un homme, en fait, je veux dire, d'après la carrure...
Lumineux ou coloré?
Non,
ou
non,
normal.
pas lumineux, normal, comme quand on voit quelqu'un dans la pénombre, hein. Voilà, pas plus, simplement, je ne voyais pas ses traits, son visage, c'est pour ça que je l'ai appelé l'ombre, parce qu'en fait, son visage était toujours dans l'ombre, donc je n'ai jamais vu son visage, en fait. Mais il n'était ni lumineux, ni non, comme quand on voit quelqu'un dans le noir, hein. Voilà.
D'accord.
C'est pour ça qu'au début, il me paraissait absolument frais.
Bah, j'imagine, oui. Oui.
Il y a de quoi, oui. l'idée un peu que je me fais, bon, le fait de vivre mal, l'entrée dans un nouvel appartement, d'avoir des sensations bizarres, de présence de choses comme ça, le malaise, ça, il peut avoir plein de raisons, c'est pas forcément lié à une histoire de cette maison. Puis vous me dites vous-même, c'était déjà, vous avez déjà eu des cas avant, et puis ça fait partie de votre vie d'une façon très, très longue, très, très entière. Par contre, les phénomènes que vous citez sont finalement assez rares, rapportés comme ça, les mains qui apparaissent, qui disparaissent, choses comme ça. J'aurais presque envie de dire que vous réinventez les ectoplasmes.
On a parlé. C'est ce que j'allais dire aussi, oui, tout à fait.
On se posait la question, est-ce que c'est vraiment fini? Parce qu'à un moment, il y a un siècle, il y avait plein de personnes qui rapportaient vives les ectoplasmes. Moi-même, j'ai déjà entendu des personnes qui interprétaient les phénomènes qui vivaient de cette façon-là, mais on retrouve un peu ici cette idée de phénomènes anthropomorphes, humanoïdes, de formes, mais pas entières, les mains qui se forment, qui se baladent. Et puis aussi cette idée que que c'est en rapport avec vous, que c'est un contact personnel, visible seulement par vous, que ça vient vous toucher, vous transmettre quelque chose, qu'il y a quelque chose d'un rapport humain. C'est un peu la relation dont parlaient les médiums à ectoplasme de l'époque, vraiment une relation très intime, très amicale avec les formations, les matérialisations qu'ils mettaient en place. Donc là, c'est un peu l'idée qui pourrait être creusée, parce que c'est vrai que là, pour donner l'image, enfin le message, le rendez-vous manqué, comme vous parlez de cette ombre, ça devient vraiment trop difficile. Je pense que c'est vraiment très personnel, peut-être.
En fait, je pensais ça parce que c'est vrai que il venait toujours vers moi avec ce mouvement des bras en avant vers moi. Et en fait, il me tendait les bras, il me tendait les mains, comme quand on demande quelque chose ou quand on veut dire quelque chose à quelqu'un. Et je me suis longtemps, pendant des années, demandé, je me demande encore, qu'est-ce qu'il avait à me dire, quoi. Voilà, c'était l'impression que j'avais, qu'il avait quelque chose à me dire, en fait, ou à me demander. Voilà. Ouais. Mais j'ai eu un autre personnage aussi. Alors celle-ci, je l'ai vue qu'une fois, toujours dans la même maison. Hein.
Ouais.
C'était une dame habillée style paysanne un petit peu de l'ancienne époque. Enfin, elle avait une robe longue avec un tablier, un petit foulard sur la tête. Par contre, là, je l'ai vue très nettement. Elle était très belle, très jeune. Elle était assise sur mon lit, à côté de moi. Elle avait les mains croisées sur les genoux. Je me rappelle, je la revois vraiment. Et elle me parlait, elle m'a parlé pendant des heures, cette dame. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit parce que je ne comprenais pas son langage. Pendant qu'elle me parlait, j'ai appelé ma sœur. Elle s'en souvient très bien, ma sœur, on en parle souvent. Je l'ai appelée, je lui dis voilà, je lui décrivais, elle ne voyait pas, ma sœur ne la voyait pas. Je lui décrivais la dame pendant que la dame me parlait. Et ma sœur se souvient très très bien de la description. Et cette dame est restée longtemps assise sur mon lit à côté de moi, me parlait très doucement. Je me souviens de son visage. Elle était très jeune, très belle et très douce.
De quoi vous parlait-elle?
Ben, je ne sais pas, parce qu'elle me parlait dans un langage que je ne comprenais pas. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a dit.
Ouais. Et ça a duré longtemps?
Oh, ça a duré un bon moment, hein, oui, peut-être une heure, peut-être plus, je ne sais pas.
Ah oui, quand même, ça a été assez long, je pense.
Ah oui, oui, c'était assez long. Et puis alors là, elle était vraiment, je veux dire, là, c'était pas une ombre, hein. C'était vraiment très net. J'avais vraiment une dame assise sur mon lit. Elle était là, elle était en couleur, elle était très nette. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu cette dame.
Ouais. Et toujours dans ce même appartement.
Toujours dans ce même appartement.
Hein. Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais.
Et j'ai su plus tard. Il y a pas longtemps aussi, il y a l'année dernière, je crois, que mon père avait eu la même apparition. Il avait vu cette dame lui aussi.
Ah, il vous l'a raconté?
Ouais, il l'a raconté à ma sœur. Et après, il est décédé, et ma sœur me l'a dit. Il a vu cette dame longtemps après moi, hein, pas à la même époque. Hein. Longtemps après moi, il a vu cette dame une nuit assise sur son lit qui lui parlait et voilà. Il avait eu un petit peu peur et puis après, bon, voilà. Ouais. Il en avait parlé. Voilà.
Ouais. Pierre Mathias, quelle est votre analyse?
Une analyse, c'est pas évident d'analyser comme ça.
Ouais.
En tout cas, cette vision de cette femme pendant une heure, on va pas la comparer. Enfin, on peut pas la comparer au personnage qui vous prenait dans ses bras.
Ah non.
Dans un cas, bon, comme disait Renaud tout à l'heure, ça fait penser aux ectoplasmes. Dans l'autre cas, c'est une vision qui est purement personnelle puisque votre sœur ne la voyait pas. Donc c'était un moyen pour vous d'exprimer une connaissance acquise par un moyen non conventionnel, on va dire.
C'est-à-dire un phénomène de voyance, de clairvoyance, quelque chose, mais de voyance dans le passé, de quelqu'un qui a peut-être vécu là, on ne sait pas ça.
Ben, le problème, c'est qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas énormément d'éléments pour analyser ça, dans la mesure où il faudrait voir la maison, il faudrait peut-être creuser l'historique de la maison.
L'histoire de la maison.
Ouais. Peut-être que des éléments dans la maison pouvaient, des éléments décoratifs, ou des écrits quelconques qui ont été lus par Ediane ou par son père, pouvait amener à penser à une histoire particulière et de là établir un lien particulier avec l'histoire de la maison.
Mmh. Mais quand mon père avait cette dame, il n'habitait pas dans, on n'habitait plus dans cette maison, hein, ni lui ni moi.
D'accord, donc vous
l'avez. Il l'a vu plusieurs années après moi et on avait quitté cette maison depuis longtemps. Mmh. Mais d'après la description qu'il en a faite à ma sœur, c'était à peu près la même description, c'était à peu près la même personne, la même dame.
Oui, là, il aurait...
Drôle de famille, toujours... Diane, quand même.
Drôle de famille.
Drôle de famille.
Mais peut-être qu'il y a un environnement particulier, puisque votre sœur semble avoir aussi une certaine sensibilité.
Mmh. Oui, 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 oui.
Donc, peut-être qu'il existe chez vous un contexte familial qui fait que vous seriez plus susceptible de côtoyer ce genre de phénomène.
Ouais.
Dans, je ne sais pas.
Dans le premier cas, celui de cet homme qui venait vers vous, vous avez dit qu'à un moment que vous avez vu les tonnelles, je ne sais pas ce que c'est les tonnettes.
Les tomates
au sol, c'est des sortes.
C'est petits carreaux rouges, comme on voit dans le midi.
Comme on voit dans les fermes de tout le sud-ouest qu'on met au sol, on appelle ça des tomates.
D'accord.
Voilà, c'est des petits carreaux rouges.
C'est ça, ouais.
D'accord.
Voilà. C'est un peu comme de la brique. Hein.
Donc vous les voyez se soulever ou pivoter et des mains sortir de là.
Voilà, ça je l'ai vu deux fois.
Mais est-ce que vous avez contrôlé ces tonnettes? Est-ce que
elles étaient tomates? Ah oui, elles pouvaient pas se soulever. Elles pouvaient pas se soulever, ça c'est sûr. Elles étaient bien.
Donc en fait c'était pas physique au sens de l'ectoplasme, mais c'était encore une vision de quelque
chose.
Voilà.
J'ai vu ça deux fois.
Ouais, ouais.
Dans le cas du personnage, je vais aller un petit peu dans le sens de l'idée de Renaud. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de particulier pendant l'apparition de ce personnage, de cet homme? Vu un élément qui ne faisait pas partie complètement de un élément particulier autour de vous, senti quelque chose?
C'est-à-dire
est-ce que vous avez entendu un bruit particulier ou senti une odeur ou
Non. Par contre, je ressentais avant que ça arrive, je ressentais un petit peu. C'était pas vraiment audible, mais c'était comme, je sais pas comment dire, comme des chuchotements très doux, mais très bas, comme si ça chuchotait en fait dans la maison.
Et après, le phénomène se déclenchait.
Voilà. Et après, je voyais... dès que j'entendais cette espèce de chuchotement, je savais que je sentais, après, je m'y étais habituée, je sentais que le personnage allait se montrer.
Oui, oui, vous saviez que ça allait arriver.
Voilà.
Je repose la question que vous a posée Pierre. Est-ce que vous avez senti une odeur particulière quand ce genre de phénomène se produisait?
Non, je pense pas. En tout cas, je m'en souviens pas.
D'accord.
Pas ça d'odeur. M'a pas marqué en tout cas, parce que je m'en souviens pas.
Pas de parfum particulier, pas d'odeur particulière.
Non. D'accord. Non, je crois pas, non.
Bon, là, on a le bourdonnement qui est intéressant quand même. C'est un élément qui me paraît intéressant. Il amène pas une explication particulière ou une compréhension particulière, mais c'est quand même intéressant de savoir ce bourdonnement que vous avez ressenti, qui a annoncé l'effet qui allait venir. Alors, comment dire, est-ce que le bruit était le bruit entendu, c'est-à-dire la sensation aussi d'entendre, ça peut être des acouphènes.
Voilà, c'était plus une sensation d'entendre que un bruit entendu en fait. Je sais pas comment l'expliquer, c'était bizarre quoi. J'avais l'impression d'être entourée de chuchotements, mais en même temps, c'était pas des chuchotements audibles, je les ressentais plus que je les entendais en fait. J'ai du mal à l'expliquer ça.
Est-ce que là je pose la question à Pierre et à Renaud, est-ce que nous n'avons pas affaire à travers Ediane à ce qu'on appelait au début du 20e siècle un médium purement et simplement? Renaud, votre avis?
Bon, on pourrait explorer cette piste, mais là on a finalement trop peu d'éléments pour dire un médium de quoi finalement. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait dire par exemple que Diane est un médium par rapport à sa propre histoire familiale peut-être.
Ouais.
On ne sait pas si cette paysanne n'est pas une de ses ancêtres communs, une grand-mère, une arrière-grand-mère qu'elle n'aurait pas vraiment connue ou que son père aurait connue. Parce que là, dans ce récit, Ediane n'arrête pas de changer de maison. Elle est, elle est, Elle naît dans une Algérie en guerre, elle est déracinée. J'ai l'impression qu'il y a aussi une recomposition de peut-être justement d'une histoire familiale ou d'une mythologie, de choses qui n'ont pas pu se transmettre comme ça de mot à mot, parce que par exemple sa mère ne disait pas tout, son père était aussi secret, il ne disait que par exemple qu'à sa sœur qu'il a vu l'apparition. Et il y a peut-être comme ça des bouts de l'histoire familiale qui sont transmis. C'est une hypothèse qui a été déjà faite.
Ouais.
Parce qu'il y a des phénomènes assez extraordinaires.
C'est-à-dire que les non-dits se transmettent par télépathie ou par clairvoyance, quoi.
Oui.
Ouais.
Et ça peut se faire de plein de façons assez variées, mais des choses qu'on n'aurait pas entendues et qu'on recompose. Et ça peut, par exemple, être recomposé de la même façon, sous une forme d'hallucination.
D'apparition, de choses comme ça, ouais. Ouais, ouais. Mm-hmm. Pierre, pour conclure.
Oui, les non-dits peuvent être transmis aussi, de manière purement conventionnelle. On n'a pas nécessairement, dans ce cas-là, besoin d'aller chercher un phénomène psy quelconque. Donc là, il peut y avoir toute une histoire ou une sensation d'histoire, ou un ressenti qui va se transmettre pratiquement de génération en génération. De manière totalement conventionnelle.
Donc c'était peut-être une ancêtre à vous que vous avez vue, Ediane, là. Ediane, malheureusement, je sais que vous avez vécu des rêves prémonitoires que j'aurais aimé vous faire raconter à l'antenne, mais le temps nous est compté et d'autres témoins nous attendent. Ce que je vous propose, en revanche, c'est de vous rappeler une prochaine fois pour parler de vos rêves prémonitoires, notamment celui concernant votre oncle,
qui était
un rêve assez extraordinaire. D'ailleurs. Qui annonçait une mauvaise nouvelle, certes, mais j'avoue que ce que vous avez vécu est quand même assez passionnant. Donc Ediane de Nice, merci beaucoup merci à vous de nous avoir confié ces témoignages, et puis on se retrouvera prochainement pour continuer à explorer les autres phénomènes paranormaux que vous avez vécu, si vous le voulez bien.
D'accord, ben j'espère, oui.
Eh ben écoutez, je vous souhaite une...
Je compte sur vous pour m'appeler.
Ah ben ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Oui, tout à fait.
Je peux vous poser une petite question?
Rapidement, oui.
Sur Nice, on a du mal à capter cette radio. C'est quoi la fréquence?
Eh ben écoutez, nous avons une fréquence à Marseille qui est 90 quelque chose, 93 quelque chose. Je vous le dirai hors antenne si vous le voulez bien. Et je vous dis ça très rapidement, d'accord?
D'accord.
Je vous souhaite une bonne soirée, Ediane.
Moi aussi.
Au revoir. Les aventuriers de l'étrange continuent avec, dans quelques instants, Jean-Marie, qui habite en Gironde, qui va venir nous rejoindre. Et Jean-Marie, lui, est penseur de feu. J'adore ce terme, d'ailleurs, c'est un vieux terme. Un penseur de feu, donc un passeur de feu, et un sourcier. Il va nous raconter comment est-ce qu'il s'est découvert ces deux talents, comment est-ce qu'ils lui ont été transmis, et ce qu'il en fait. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi, sur Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange, spécial témoignage, continue avec, cette fois-ci, après Ediane, le témoignage de Jean-Marie, qui habite en Gironde, pas très loin de l'océan. Et nous allons changer complètement de registre. Jean-Marie, bonsoir.
Bonsoir, Louis Bénédi.
Alors, mon cher Jean-Marie, vous le savez, Pierre Massias et Renaud Évrard sont à mes côtés pour peut-être essayer de répondre à vos questions. En fait, vous, c'est plus un témoignage de ce que vous vivez, vous vivez très bien d'ailleurs, le fait d'être penseur de feu et d'être sourcier radiesthésiste, hein, c'est ça?
C'est tout à fait ça.
Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que vous avez... là où ça a commencé le plus tôt, vous avez commencé à découvrir que vous étiez sourcier, c'était vers l'âge de 12 ans, hein, c'est ça?
Tout à fait ça, c'est une tradition familiale. Mon grand-père était sourcier et on m'expliquait qu'il trouvait de l'eau avec une baguette. Et j'imaginais dans mon esprit qu'il plantait une baguette en terre et puis il allait trouver l'eau comme ça. Et un jour, je lui ai demandé, il m'a montré comment il faisait et tout a commencé comme ça.
Et alors, est-ce que vous vous rappelez de ce jour où il vous a montré?
Oh, tout à fait. Nous étions chez lui, sa propriété, dans le Médoc. Et il m'a taillé une baguette en bois, en forme de Y. Et il me l'a pris dans les mains. Et il m'a dit, voilà, tu vas marcher de long en large sur le terrain Et puis, tu vas penser très très fort à l'eau. Et à un moment, ta baguette, tu vas la sentir bouger dans tes mains et elle va tourner. Donc, j'ai commencé comme ça, et à un moment, j'ai senti quelque chose, et la baguette, sans que je puisse m'y opposer, s'est mise à tourner et m'indiquer le sol. Voilà ouais. Comment tout a commencé.
Ouais, ouais. Et alors, quelles sont vos capacités? Parce que ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire, vous ne vous contentez pas de vous dire, bah là en dessous, il y a de l'eau.
Non, parce que mon grand-père était radiesthésiste aussi, qui était connu, mmh. Et il était capable, lui, avec sa montre à gousset, de déterminer la profondeur de l'eau. Donc, il m'a expliqué comment ça fonctionnait, il m'a prêté un pendule, qui était un pendule en buis, à l'époque, suspendu à une ficelle, et il m'a expliqué comment on pouvait se servir du pendule. À ce moment-là, je me suis mis à tenter de m'en servir, et très rapidement, en quelques minutes, le pendule a commencé à s'animer, en fonction des conventions que j'avais fixées, mm-hmm. comme m'avait expliqué mon grand-père,
ouais.
Et j'ai obtenu la maîtrise du pendule.
Mm. Et alors, ça vous sert à quoi?
Dans la vie courante, ça ne me sert pas à grand-chose, mais ça peut servir à trouver de l'eau pour des camarades ou des amis ou des gens qui me demandent.
Ouais.
Je vais sur leur terrain. Avec la baguette, je détermine où sont les sources, et avec le pendule, je détermine la profondeur, le débit, le type de matériaux qui sépare la surface et l'épaisseur des matériaux.
Ah oui, quand même.
Oui.
Mais quand vous dites le type des matériaux, c'est-à-dire, je vais dire sûrement des bêtises, hein, parce que j'y connais pas grand-chose en géologie, c'est du grès, du calcaire, de l'argile, de la caillasse.
Peu importe ce qu'il peut y avoir en dessous.
Oui.
Moi, je pose des questions au pendule, et le pendule va me répondre. En fait, c'est le pendule m'indique s'il y a tel type de matériaux ou tel type de matériaux. Mmh. Par exemple, si je suis ici, je sais forcément qu'il y a du sable. Mais forcément, il y a aussi, il doit y avoir de la liosse ou des choses comme ça. Si vous allez sur notre terrain, vous trouvez forcément de la pierre, vous allez trouver de l'argile, vous allez trouver du sable, etc.
Mmh.
Mais je ne suis pas forcé de savoir, en fonction de ce qu'il y a en surface, ce qu'il y a en dessous.
Oui.
Donc je vais poser un certain nombre de questions au pendule, et le pendule, en fonction des conventions que je vais avoir choisies, va m'indiquer s'il y a ou s'il n'y a pas les matériaux sur lesquels je interroge.
Ouais. Et est-ce qu'il vous est arrivé de vous tromper?
Pas à ma connaissance, puisque toutes les sources que j'ai trouvées sont toujours en fonctionnement.
Ouais. Et est-ce qu'il y a une sensation physique? Vous savez, quand vous marchez sur le terrain avec votre baguette en Y, hein, c'est ça, pour trouver...
J'ai poussé la chose jusqu'à utiliser une simple baguette droite en bois, où je ressens physiquement l'eau, ce que je recherche, dans une forme de picotement, une sorte d'électrisation de la main.
Ouais. Et là vous savez, enfin cette sensation physique, là vous savez au plus profond de vous-même que là il y a de l'eau en dessous de là où vous êtes. Il y a de
là,
l'eau.
Là je sais que c'est ce que je recherche.
Ouais. Juste une question comme ça. Vous ne trouvez que de l'eau sous le sol, c'est-à-dire de l'uranium, du pétrole ou de l'argent.
Je me suis pas penché sur les problèmes d'uranium, de pétrole ou autre.
On ne sait jamais.
J'ai trouvé des objets qui avaient disparu ou que les gens avaient perdu.
Ah oui.
J'ai trouvé diverses choses, même sur carte. Je m'étais amusé à un moment en cherchant certaines choses et en allant vérifier ensuite sur le terrain si ça y était ou si ça y était pas.
Ouais. Et ça fonctionne même sur carte.
Pour moi, ça fonctionne. Avec moi, ça fonctionne aussi un petit peu sur carte. Mais j'ai jamais poussé le système trop loin. Quoi. J'ai pas poussé l'expérience plus loin.
Mais
mon expérience, c'est surtout une expérience dans la recherche de sources et de la recherche des débits, des épaisseurs de matériaux ou autres. Où là, je dis aux gens, normalement, c'est fiable à 100%.
Ouais.
Il y a bien une part d'erreur, mais je n'ai pas encore trouvé celle-là.
Dites-moi, Jean-Marie, est-ce que vous avez des frères ou des sœurs?
J'ai eu deux frères, oui.
Mmh.
Et aucun n'était radiesthésiste ni penseur.
Ah oui, c'est vous qui avez hérité de ça de votre grand-père.
J'avais deux frères qui étaient très cartésiens, donc eux ne se sont pas occupés.
Ouais.
Et j'étais celui qui était le plus proche de mon grand-père.
D'accord. Et lui, vous l'a enseigné, et puis ça a marché très rapidement, quoi.
Ah, mais ça a marché du premier coup. Il n'a même pas posé de questions. C'est parti ou autre, et il m'a dit, ben voilà, petit, t'es sourcier.
Bel héritage de votre grand-père, quand même.
Oh, il m'a donné que ça comme héritage.
Oui. Enfin, déjà, ça, c'est pas mal. Ça, c'est déjà pas mal.
Ça, c'est un excellent héritage.
Est-ce que vous avez des enfants, vous-même?
Oui, j'ai des enfants.
Et alors?
Alors, pour ce qui est de sorciers, j'ai pas encore vu si mes enfants avaient cette capacité, mais pour l'autre, pour penseur de feu, oui.
Ah, donc vous pensez déjà à transmettre ce don. On va en parler, hein, du penseur de feu. Dernière question que je voudrais vous poser, Jean-Marie, avant d'écouter Pierre Massias ou Renaud Évrard nous évoquer ce que l'on sait scientifiquement à propos des sorciers. Est-ce que vous avez constaté que, je sais pas moi, vous dérégliez les montres, est-ce que vous avez constaté que la télé marchait moins bien quand vous étiez là? Vous savez, ce genre de choses.
Constater que les montres les montres modernes numériques,
oui.
Je vidais très rapidement les batteries, et dans les anciens modèles de transistors, j'arrivais rapidement à brouiller les
ondes,
enfin la réception de...
Oui.
Alors, par contre, si je me mettais à toucher l'antenne, je devenais une antenne vivante.
Oui, d'accord. Un bon récepteur, quoi.
Je suis un excellent récepteur. Mais je pense que nous sommes tous d'excellents récepteurs.
Ouais.
La seule différence entre un sorcier, moi je suis ce que j'appelle un radiesthésiste sorcier, plus spécialisé dans la recherche de l'eau, mais un radiesthésiste n'est ni plus ni moins qu'un être humain tout à fait normal qui a une capacité atavique de sélectionner les ondes radio qui sont émises par chaque corps.
Ouais. C'est comme ça que vous le sentez, vous?
Je pense, oui. Je pense que j'utilise une partie de mon cerveau, je ne sais pas laquelle, mais qui est capable de sélectionner une onde, et puis, de façon empirique, dire, ben voilà, je recherche cette onde, et je vais me focaliser sur cette onde. Et le pendule en lui-même n'est que l'aiguille du compteur du tachymètre qui va me montrer si j'approche du but ou pas.
Oui. Mais en fait, c'est vous qui avez toutes les informations, y compris de manière inconsciente, quoi.
Ce sont des informations totalement inconscientes, oui.
Ouais. Renaud Évrard, que pensez-vous de l'expérience et du vécu de Jean-Marie?
C'est quelque chose qu'on revoit assez souvent. Il m'a l'air d'être le parfait sourcier radiesthésiste. Pas grandiloquent, qui fait ça pour ses amis, qui, je pense, ne prend pas d'argent pour ce genre de... Enfin, il pourrait en prendre, il pourrait avoir des compensations, mais c'est vraiment l'exemple de la, je pourrais dire, la paranormalité rurale, quoi. C'est pas à dédaigner. Il s'est jamais soumis à des expériences, donc ça reste un témoignage vraiment d'une occupation, puis aussi d'un trait de personnalité. Mais c'est vrai que les conceptions de dons héréditaires ou alors la métaphore sur les ondes, la métaphore physique qui ça fonde un peu une mythologie qui est efficace, hein. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il y en a un qui hérite du don, les autres ne le font pas, et puis on a l'impression le vécu don d'électricité. Mais en même temps, ces choses-là qu'on a essayé de les étudier, et puis ça a été étudié, les parapsychologues l'ont fait, n'ont jamais réussi à déterminer s'il y avait vraiment une onde radio capable de ça, comme le supposent beaucoup de radiesthésistes. Donc, de ce côté-là, ils ont plutôt évacué, surtout quand ils voient que ça marche de la même façon qu'on utilise une carte. Et là, on n'est plus sur le terrain, on est vraiment dans une imagination, quoi. C'est un rapport imaginaire avec la cible qui se rapproche de la clairvoyance, mais pas du tout d'une réception d'ondes physiques. Et donc aussi sur la notion de don, comme dit Jean-Marie, on est tous un peu des récepteurs, voilà, ça fait aussi partie de certaines personnalités. Je sais pas, j'entends la voix de Jean-Marie, je m'imagine un grand bonhomme, bon vivant,
gagné.
Vraiment. Voilà, quoi.
Et puis à Lèche Cap Ferré, on mange bien aussi, quand même. C'est pas mal. Quoi.
Ça dépend ce que vous, chez qui vous tombez.
Oui, ça. On va pas donner de nom.
Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un écart entre ce que dira le parapsychologue scientifique urbain et ce que vivra le sourcier rural. Mais cette pratique existe, elle est finalement maintenant très peu étudiée, mais elle continue à fonctionner de sa
tout
façon.
À fait, oui. Pierre Mathias, est-ce qu'on a une idée de comment fonctionnent les sourciers comme Jean-Marie? Je sais que le professeur Rocard avait fait des expériences.
Il y a plusieurs hypothèses.
Le père de Michel Rocard.
Oui, ouais. Yves Rocard.
Ouais.
Il y a plusieurs hypothèses que Jean-Marie a mis en évidence d'ailleurs en décrivant sa pratique. Il y a la notion de radiesthésie avec la baguette de sourcier ou avec le pendule qui fait appel ou avec le pendule sur le terrain qui fait appel à des notions d'ondes. Yves Rocard n'avait pas mis en évidence des ondes proprement dites, mais une explication par un champ magnétique.
Ouais.
Mais il nous a parlé aussi de sa pratique sur carte, et là, il n'y a plus d'ondes magnétiques. On va se rapprocher quand on va faire de la radiesthésie sur carte de la parapsychologie, c'est-à-dire des phénomènes de comme on a l'habitude de dire, de clairvoyance, vont être médiatisés par le pendule en l'occurrence.
Comme ce que fait Jean-Louis Crozier, grand radiesthésiste, chercheur de personnages disparus. Vous le connaissez, Jean-Louis Crozier, Jean-Marie, vous en avez entendu parler?
Oui, j'en ai vaguement entendu parler, mais c'est bien la première fois qu'on me dit que je suis clairvoyant.
si, la preuve.
Et comme à partir du moment où vous travaillez sur carte, vous n'avez plus ces champs magnétiques, vous n'avez plus ces variations de champs magnétiques que décrivait Yves Rocard, qui était le support pour lui du phénomène radiesthésique. Donc, on va se ramener vers des phénomènes déjà connus de la parapsychologie.
Pour moi, le travail sur carte, je n'explique pas bien comment ça peut fonctionner. Pour ce qui est du travail sur le terrain, je pars sur le principe que tous les corps, les 100 et quelques corps principaux qui existent à l'état naturel, ont une radiation spécifique. Et en se combinant, chaque corps, chaque matière a une radiation spécifique. Et la seule chose que je sais, c'est que cette radiation, je suis capable de la rechercher, de la sélectionner. À partir de là, est-ce que j'ai un don quelconque ou autre? Je pense que n'importe qui dans la vie est capable de le faire. Le tout, c'est d'avoir l'esprit suffisamment ouvert pour se dire, tiens, ça peut éventuellement m'arriver et marcher. Maintenant, sur carte, est-ce que par hasard, en regardant une carte, on va chercher l'onde, même infinitésimale, avec son esprit très très loin? Je peux pas le dire. Je sais pas si on est dans la parapsychologie ou dans un phénomène physique.
Oui,
vous faites référence à la notion d'onde de l'échelle de Bobis.
Bon, là, je ne connais pas du tout.
Non, moi non plus. Vous êtes seul à connaître, Pierre.
L'échelle de Bobis,
C'est une échelle de ressenti, on va dire, à travers la baguette, qui est utilisée par les radiesthésistes, mais qui est variable, qui est très difficile, qui est très, comment dire, très changeant, qui varie en fonction des personnes, en fonction des personnes elles-mêmes, de leur état de santé, etc.
En fonction même de la journée, ça varie.
Fonction de la journée aussi.
Et de l'heure de la journée.
Tout à fait.
Ah oui, d'accord. Mais
encore faut-il démontrer la réalité objective d'une échelle, d'une telle échelle. Et pas encore fait.
Ouais.
Vous avez dit quelque chose quand même que je voudrais souligner tant que j'y pense. Par rapport à l'antenne, aux ondes radio, faut quand même faire attention. C'est pas parce que un poste de radio se comporte de manière un petit peu bizarre quand on s'en approche que c'est nécessairement qu'on est radiesthésiste ou magnétiseur.
Ah oui, non, d'accord.
On est particulièrement électrique seulement.
Voilà.
Sort du cadre. On est dans un cadre tout à fait conventionnel.
D'accord. Jean-Marie, on fait une pause. On se retrouve dans quelques instants, toujours avec Pierre Mathias et avec Renaud Évrard, parce que là, on va aborder une deuxième facette de votre personnalité. Celui de penseur de feu, d'accord?
Oui, tout à fait.
Allez, à tout de suite dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec cette soirée consacrée spécialement à vos témoignages en compagnie de Pierre Massias, webmaster du site psyland.org où vous pouvez d'ailleurs télécharger toutes les émissions des aventuriers de l'étrange. Et puis Renaud Évrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Alors Jean-Marie, on a parlé avec vous, vous nous appelez de la Gironde, de l'Esch-Cap-Ferré exactement. Vous êtes sourcier, radiesthésiste, mais vous êtes également penseur de feu. Et là aussi, comme votre talent de sourcier, c'est une histoire de famille.
Tout à fait. Alors ceci vient de ma grand-mère et de ma mère qui possédaient ce talent.
Oui.
Et qui un jour m'ont, je me rappelle plus si c'est ma grand-mère ou si c'est ma maman qui m'a donné ça et m'a expliqué comment ça se passait. Donc elle m'a dit voilà, tu souffles trois fois, tu récites ce petit poème et puis c'est fini. Donc chaque fois que j'ai eu quelqu'un de brûlé autour de moi, je lui prends la main, je souffle dessus, je récite ma prière, puisqu'on appelle ça une prière,
oui.
Et puis c'est fini. Et dans le quart d'heure qui suit, la brûlure a disparu. Mais bon, après ça dépend de l'état de la brûlure aussi.
Oui.
Si vous avez une brûlure superficielle, dans le quart d'heure c'est fini, la douleur a disparu. Si vous avez une brûlure avec une cloque, la douleur disparaît en premier, puis la cloque s'assèche. Et si vous êtes en troisième degré avec une nécrose, à ce moment-là, c'est la douleur qui va disparaître et à un moment, la chair va repousser beaucoup plus vite et surtout ne pas laisser de cicatrices.
Ouais.
Et c'est ce phénomène-là qui, pour moi, est le plus étonnant, c'est qu'on arrive à la fois à couper une douleur, bon, pourquoi pas, on va dire une influence psychique de l'un à l'autre, mais d'arriver à influer sur une cicatrisation, ça, j'arrive pas à l'expliquer.
Ouais. Vous avez eu à exercer votre talent sur des personnes victimes de brûlures au troisième degré?
J'ai eu ce douteux privilège où on m'a envoyé des personnes. Une dame qui s'était fait exploser un bidon d'alcool à brûler à côté d'elle.
Ouais.
Une autre dame qui s'était renversée, qui travaillait dans un restaurant dans le secteur. Si elle écoute, elle devrait se reconnaître, qui, un 15 août, s'était renversé de l'huile de confit sur le bras.
Wow. Oui.
Et un autre monsieur qui, récemment, avait saisi une bûche enflammée avec des tisons à pleine main.
Oh, mais ça se fait pas, ça, quand même.
Bah oui. Maintenant, il le sait.
Oui, maintenant, il le sait, oui, ça, c'est clair. Mais alors, dites-moi, comment ça s'est passé pour la dame, par exemple, qui s'est brûlée avec l'huile de confit sur le bras?
Disons que c'est l'on m'a téléphoné sur le coup de 23h le soir de l'hôpital. Et ce sont les urgences qui m'ont dit, voilà, il y a une dame qui s'est brûlée, est-ce que vous pouvez la panser? Ben, j'ai dit, ok, est-ce qu'il faut que je vienne? On m'a dit, non, elle va venir, son papa l'accompagne. Donc, elle est arrivée, elle est venue à la maison. Ma femme étant infirmière, ça a permis d'ouvrir le pansement avec des règles d'asepsie. J'ai officié, ça a duré à peu près une demi-heure, et quand elle est arrivée, elle ne pouvait même pas plier sa main, plus du tout, elle souffrait le martyre, et quand elle est repartie, ça allait beaucoup mieux, et quand elle est arrivée chez elle, à quelques kilomètres d'ici, ça y est, c'était fini.
Elle n'avait plus mal.
Elle n'a plus qu'une, alors qu'elle avait tout l'avant-bras de brûlé. Très profond, elle n'a plus qu'une petite trace, gros comme une pièce de 2 euros.
Ça, c'est assez extraordinaire, quand même.
En 4 jours, c'était fini.
Elle avait cicatrisé.
Elle avait cicatrisé.
Ouais. Et la personne qui s'est brûlé les mains, parce que prendre une bûche...
Ça c'est un ami, chasseur, qui sur le coup de 20 heures s'est brûlé la main en saisissant une bûche qu'il avait mis devant son feu et puis il pensait qu'elle était éteinte.
Ouais.
Et donc il est venu me voir seulement à 22 heures parce que j'étais pas chez moi, j'étais pas sur téléphone. Et là j'ai pensé pendant il a fallu plus d'une heure quand même.
Ouais.
Mais c'était très très profond. Et donc j'ai réussi à lui couper le feu et ça a cicatrisé. Et au bout d'une semaine, c'était fini. Et actuellement, il n'y a plus de...
De traces de cicatrices.
Il n'y a plus de traces du tout.
Ouais.
Mais ce monsieur avait une autre particularité. Quelques temps avant, plusieurs mois avant, il avait fait un arc électrique entre son alliance et une batterie.
Ah,
et il avait une très très vilaine cicatrice de brûlure qui avait été causée par la bague.
Oui, bah oui, oui, oui.
Quand je suis revenu le voir, parce qu'en général, je reviens voir les gens, on ne sait jamais s'ils ont encore quelques douleurs,
oui.
Ou si ça ne fonctionne pas, je veux bien savoir comment ça fonctionne. Et là, je lui ai pensé cette brûlure pour voir. Et cette brûlure qui ne cicatrisait pas, qui était vilaine, violacée ou autre, est en train de disparaître.
Ah oui.
Mais ça repousse.
Oui, oui, oui.
Au bout de 2-3 jours, il a senti des démangeaisons à l'intérieur de la brûlure et ça s'est mis à repousser.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Je sais que ça fonctionne, mais je ne sais pas comment.
Jean-Marie, est-ce que vous sentez quelque chose se passer au niveau des mains, de votre
Absolument,
corps?
Absolument, rien.
Rien?
Rien. Je ne sens pas si j'ai un influx quelconque. Je sens. Je sais que si je touche la personne, c'est plus efficace.
Ouais.
Mais je sais aussi que sans la toucher, ça marche aussi.
Oui. Et vous vous concentrez ou alors vous pouvez discuter avec elle ou...
Je peux discuter.
Oui. Il suffit juste que vous soyez là et que vous appliquiez votre petit rituel. Quoi,
voilà, j'applique mon petit rituel. Je souffle sur la partie qui a été brûlée.
Ouais.
Et puis à partir de ce moment-là, c'est parti. Quoi.
Ouais, ouais,
le processus fait. Alors quelquefois, il faut revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois pour. Mais en général, sur une brûlure tout à fait normale, avec une fois, c'est fini, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et ça marche aussi sur moi, ce qui est un gros avantage.
Ah oui, ça effectivement, ouais, parce que tous les penseurs de feu ne peuvent pas se soigner eux-mêmes.
Moi, je peux me penser.
Oui. Oui, ça c'est un avantage qui est pas mal. Ouais, ouais. Renaud Évrard, est-ce que vous pouvez apporter quelques débuts de réponse aux interrogations de Jean-Marie? Ça marche comment?
Je pense que je donnerai à Pierre Mathias l'occasion d'expliquer un peu les mécanismes qu'on pense en jeu. Mais je voudrais souligner que j'apprécie pas mal d'aspects de la pratique de Jean-Marie qui est, bon, je ne sais pas, vous l'avez sûrement entendu, ce sont les urgences qui font appel à lui. Une collaboration comme ça, officieuse, avec des penseurs. Donc c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. En plus, Jean-Marie prend quand même soin de ses patients, c'est-à-dire sa femme est infirmière, il assure l'asepsie, ensuite la personne n'est pas aliénée à son guérisseur. Elle peut retourner à l'hôpital faire un suivi, Jean-Marie fait lui-même un suivi, donc c'est quand même des choses qui sont importantes sur un plan déontologique d'une pratique de penseur, parce qu'il peut aussi y avoir des abus. Et donc là, je trouve ça assez intéressant. Je voulais souligner, je pense, donc je suis, c'est pas mal.
Elle est pas mal. Elle vaut pas cher, celle-là, mais elle est pas mal.
Ça doit être plein de vie, c'est ça.
On vous excuse, Renaud, c'est pas grave, la soirée est tard. Bon, bref.
Ouais, désolé.
Pierre Mathias, donc, est-ce que vous pouvez répondre, en partie du moins, aux interrogations de Jean-Marie?
Aux interrogations, disons sur le phénomène lui-même. Comme tout phénomène, comme on disait tout à l'heure sur la radiesthésie, il peut y avoir plusieurs moyens d'aborder la chose. Il peut y avoir aussi, non pas une solution à tout problème, il peut ne pas y avoir une solution unique, mais une solution multiple. Donc j'évoquais un certain nombre de choses tout à l'heure. À propos de radiesthésie,
ouais.
Il faut quand même noter dans le domaine de la radiesthésie, dans la sourcellerie en particulier, il existe un Allemand qui s'appelle Betz, je me souviens plus de son prénom, qui a publié 2 articles dans une revue américaine à la fin des années 90, où il montrait que les sourciers, du moins les sourciers qu'il avait sélectionnés, obtenaient de meilleurs résultats dans la recherche d'eau que les moyens conventionnels. Donc c'est quand même une faculté, on va dire, étonnante. Là, on dépasse les moyens rationnels.
Oui.
Dans le domaine de la
des penseurs,
des penseurs, de la magnétiseurs, de la du soin de cette manière, par cette manière-là. Il peut y avoir aussi, en particulier des brûlures, il peut y avoir aussi plusieurs explications. Alors j'ai pensé par exemple à Léon Chertok, qui a fait des expériences sous hypnose, où il arrivait à suggestionner des personnes pour faire apparaître des brûlures, par exemple en leur posant une pièce de monnaie sur le bras.
Froide, évidemment, une pièce de monnaie froide.
La température ambiante, en leur disant qu'elle était chaude. Il a pu générer des brûlures sur la peau de ces personnes hypnotisées.
Ouais. Mmh. Donc ça veut dire qu'elles se généraient elles-mêmes la trace de brûlure, évidemment.
Exactement.
Ouais. Par autosuggestion.
Ouais. Et elles obtenaient aussi le phénomène inverse, c'est-à-dire que la guérison d'une brûlure par autosuggestion était plus rapide que la normale. Mmh. Donc dans ce genre d'affaires, on a aussi donc des relations de suggestion
donc psychosomatique, quoi, vraiment. Oui, oui, oui.
On va dire psychosomatique.
Ouais, d'accord.
Cela dit, il existe des gens qui ont fait quand même des expériences avec des magnétiseurs sur des animaux dans des conditions tout à fait contrôlées et qui ont aussi
obtenu des résultats,
des guérisons, par exemple, des cicatrisations plus rapides que la normale avec des magnétiseurs.
Jean-Marie, est-ce qu'il vous est arrivé de soigner un animal?
Oui, j'ai soigné un animal, qui était un animal qui m'appartenait d'ailleurs. Mon radiateur de voiture, le radiateur de chauffage intérieur avait explosé sur et ça avait giclé sur le chien.
Oui.
Et le chien était brûlé et je l'ai soigné. Donc, alors, moi, je veux bien croire aux
et le chien, ça a marché,
de la psychosomatique, mais ça me semble un peu bizarre, parce que j'ai soigné aussi des enfants, des tout-petits-enfants. Mmh. J'ai soigné un docteur qui était ultra réticent,
ça, c'est bien. Ouais, ouais.
Très cartésien. Alors lui, je l'ai soigné parce qu'il a fait une descente en rappel un peu vite, sans gants.
D'accord, oui.
Donc il s'est fait de superbes cloques aux mains.
Ouais.
Je lui ai dit, mais je vais te soigner. Il m'a dit, autant pisser dans une boîte à vieux vent. Je lui ai dit, ok, mais on risque rien. Donc, je lui ai pansé le feu.
Ouais.
On a continué à discuter. Au bout d'un quart d'heure, je lui ai dit, au fait, tes mains vont comment? Puis là, il a regardé, il m'a dit, baisse, il n'y a plus de cloque. Et je lui ai dit, t'as plus mal non plus. Mais j'ai dit, voilà. Donc, moi, je veux bien que l'histoire de je te suggère ou autre, mais ça n'explique pas l'autosuggestion ou
ça n'explique pas totalement, à votre avis, le phénomène de guérison.
Non, ça n'explique pas. Il y a des choses qui n'expliquent pas. Il y a quelques années de ça, je me suis fait brûler par une cigarette, très profondément dans une main. Je me la suis pensé. Je me suis pas auto-suggestionné pour en disant tiens tu vas plus avoir mal. J'avais réellement mal.
Mmh. Ouais. Ah ouais.
Et ça me l'a coupé.
Ouais. Bah ouais.
Ah oui, mais justement la notion de douleur est une notion très psychosomatique justement. On peut avoir plus mal ou moins mal en fonction de sa manière d'accepter la douleur, en fonction d'un certain nombre d'aptitudes.
Ouais. Certains sont plus durs au mal que d'autres.
Certains sont plus durs que d'autres. Mais dans tous les cas, il y a cette notion, il y a cette part d'explication. Mais comme je disais, il y a aussi une autre part qui va rentrer. Alors, quand on parle magnétiseur, on va penser à de la psychokinèse biologique, ce qu'on appelle de la psychokinèse, de l'action de la pensée sur la matière. Et certains chercheurs, et je pense à Jean Barry, qui est un Français, enfin qui était français, qui a fait des expériences sur des cultures biologiques,
Des plantes, des végétaux,
pas des virus, mais des molécules de ce genre de bestioles.
bestioles.
Et qui a obtenu donc un effet par psychokinèse. L'effet demandé au sujet, c'était de développer la culture ou de la mettre en difficulté et l'obtenait des résultats significatifs. Donc on peut avoir un effet du magnétiseur même sur un enfant, voire même sur un animal, dû en partie à une action psychosomatique, même si l'animal ne sait pas n'a pas conscience, comme nous on a conscience de cet effet-là, mais il a conscience qu'on se comporte différemment par rapport à lui et par rapport à un objet précis qui est sa zone de souffrance, on va dire. Mmh.
Donc il y a nécessairement un échange d'informations entre le praticien et même l'animal. Mais ça n'explique pas tout, donc il y a plusieurs possibilités d'explication.
Ouais.
On va en avoir une partie par des notions psychologiques, psychosomatiques,
de suggestion,
et une autre partie par un phénomène de l'ordre du psy, mm-hmm. de l'ordre de la parapsychologie.
De la psychokinèse ?
En l'occurrence, de la psychokinèse, ouais, parce que là, on va
vous savez ce dont il s'agit, Jean-Marie, la psychokinèse ?
Non, mais rien qu'au nom, psycho et kinèse, je vois à peu près de quoi il s'agit.
C'est par
une
certaine force de l'esprit, je résume,
oui.
hein,
avoir agir sur la matière.
Agir sur la matière, voilà. Donc, il y aurait sans doute des deux dans le cas des magnétiseurs et dans le cas des penseurs de feu.
Très certainement.
Ouais. Une partie psychosomatique et une partie de psychokinèse.
Moi, ce que je trouve dommage dans tout ce qui est guérisseur, penseur de feu en particulier, qui est mon cas, c'est ce sous-emploi que nous avons et cette grande réticence qu'a le corps médical à nous employer. Alors même si parfois certains, comme certaines personnes qui me l'adressent, font appel, on a quand même là une sorte de don sous la main qui est gratuit, qui coûte rien à la sécurité sociale,
oui.
Qui fait que des gens ne souffrent plus sans employer de produits. Ça, c'est véritablement, c'est pas miraculeux, mais pas loin, quoi.
Mais oui, mais là, quand même, Jean-Marie, des toubibs, les urgences, certains personnels d'hôpitaux font appel à vous malgré tout.
Assez rarement quand même, c'est pas du tous les jours.
J'imagine,
mais il y a certaines personnes qui, quand elles reçoivent des brûlés, me les envoient, oui.
Ouais, mais ça
c'est
reste officieux, quoi, ça reste officieux.
Ah
ça,
oui,
on vous appelle en douce, quoi.
Ça, hein.
Ouais,
de toute façon, il n'y a pas marqué sur ma boîte aux lettres, Jean-Marie, penseur de feu,
oui. Et à contrario, vous n'avez pas, dans les hôpitaux du coin, votre casier avec marqué Jean-Marie, penseur de feu.
Non plus. Ils me connaissent comme patient, mais pas forcément ça.
Très bien. En tout cas, Jean-Marie, je vous remercie de nous avoir apporté votre témoignage, vraiment. Si vous vivez encore quelque chose de particulier dans le cadre de penseur de feu ou de radiesthésiste, cadre de recherche sur carte, comme ça, avec un succès ou pas, ou de penseur de feu dans un cas exceptionnel, je compte sur vous pour nous en faire part, en tout cas.
Oui, j'ai quelque chose quand même à rajouter sur ce phénomène-là.
Oui.
Une de mes filles pense le feu aussi. Donc, mais elle, je lui ai pas transmis le don, on lui a expliqué bien après, mais elle a commencé à penser le feu en me regardant faire,
ouais.
et en m'imitant.
Et est-ce qu'elle connaissait la
non,
prière ?
Elle connaissait pas.
Intéressant, ça.
Ben oui, c'est bon.
Intéressant. Ouais.
La prière, pour moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a inventé dans le temps pour éviter d'être brûlé vif en place de grève. Mais je pense que la prière n'a rien à voir avec le fait de penser.
Ouais. Ah, peut-être. La preuve, votre fille.
La preuve, ma fille.
Ouais. Ou alors, vous avez la chance d'avoir une fille qui est une vraie guérisseuse.
Elle a un certain don pour avec les animaux. Alors, qui sait que si c'est pas lié avec ça.
Peut-être.
Non, sérieux.
Bon, merci Jean-Marie en tout cas.
Je vous en prie.
Bonne fin de soirée.
Bonne fin de soirée à vous aussi.
Au revoir.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Dans les aventuriers de l'étrange, témoignage, suite, toujours au 0826-300-300, toujours en compagnie de Pierre Massias du site psyland.org et Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International, nous accueillons cette fois-ci Janine qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonsoir Janine.
Bonsoir monsieur.
Merci de venir nous rejoindre, car vous avez vécu un phénomène d'apparition.
Oui.
Alors pour vous, ça s'est passé sur le quai d'une gare.
C'est ça.
Racontez-nous comment.
J'étais allée à la gare pour accueillir une cousine qui venait. Et subitement, j'ai vu sur le quai de la gare mon ex-belle-fille, toute souriante, qui venait vers moi. J'ai été prise un peu de panique. Ça faisait au moins 12 ans que je ne l'avais pas vue depuis le décès de mon fils.
Oui, son mari donc.
Son mari, ouais. Oui. Ils étaient en instance de divorce et malheureusement, il n'a pas supporté.
Bon. Ouais.
Elle laissait une fille qui venait chez moi en vacances et tout. Et là, ça m'a vraiment choquée parce que je ne pensais pas du tout à elle. Alors, je l'ai regardée, son sourire, je l'ai vu comme je l'avais vu il y a 12 ans auparavant. Et sur ce, je me suis retournée, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas, mais enfin, finalement, si elle vient vers moi, il faut quand même que j'aille et que j'y aille aussi.
Oui.
Je me suis retournée, il n'y avait plus personne.
Est-ce que quand vous l'avez vue apparaître, enfin quand elle était oui. devant vous, elle était loin, en distance à peu près?
Ah non, 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 elle était pas loin. Elle était à quelle gare? C'est pas grand, c'est une petite gare.
Oui.
Elle était peut-être à même pas 3 mètres de moi. Hein.
Ah oui, donc c'est franchement très près.
Ah oui, 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 c'est franchement très près. Elle avait une, vous savez, la petite valise qu'on tire maintenant sur roulette
oui,
là.
Oui,
elle bon. Avait ça, elle venait vers moi. Et je l'ai vue comme je la connaissais il y a 12 ans auparavant.
Oui, 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 oui. oui
mais
oui,
toute
oui.
souriante, la même coiffure et tout. Alors là, je comprends pas parce que franchement, ça m'a choquée. Et j'en aurais parlé avant, quelque chose, je dirais, bon, ben, c'est peut-être ça. Mais non, et après, j'ai eu des nouvelles par ma sœur qui, elle, m'a dit qu'elle l'avait vue venir dans le village où son mari était enterré. Et elle était passée chez ma sœur pour lui poser justement la question, comment est la tombe, est-ce qu'elle est bien là, parce que naturellement, elle n'était pas venue, hein, puisque
oui,
des
tas,
des choses.
Mmh.
Et peu de temps après, ma sœur m'a dit ça, elle me dit, tu sais, qui est-ce qui est venu? Ben, elle me dit, je l'avais même pas reconnu et tout. Mais je dis, c'est pas vrai, elle me dit, ben si. Et alors, après, je dis, mais au fait, ça m'est revenu, je dis, mais je fais ce rapprochement. Comment se fait-il que moi... Et c'était donc... elle est décédée le 6 novembre 2006. Et c'était en été... Le jour exact, je ne peux pas vous dire, mais c'était en été 2006.
Oui. C'est-à-dire que 6 mois avant qu'elle ne décède...
Voilà.
Elle vous est apparue sur ce quai de gare.
Oui. Et en même temps, elle est allée chez ma sœur. Mais alors là, elle l'a vue. Et c'est elle-même qui est allée. Hein,
oui, oui. Là, c'est la vraie...
Pour se renseigner sur la tombe de son mari.
D'accord. Donc il y a eu elle était au moment où dans la période où vous l'avez vue sur votre quai de gare,
oui.
Elle était en train de se recueillir sur la tombe de votre fils en fait.
Oui, enfin je sais pas si c'était le jour-là ou quoi, mais enfin elle s'intéressait à justement à ça.
Oui, bah oui.
Alors et comme apparemment quand ma sœur l'a vue, elle l'a vue vraiment pas comme moi je l'ai vue, elle l'a vue dans l'état actuel et vraiment pas, elle l'avait presque pas reconnue.
Oui.
Et finalement, elle est décédée donc à peu près 6 mois après.
Oui, c'est-à-dire que physiquement, elle avait vraiment beaucoup changé, quoi.
Exactement.
Ouais.
Alors que moi, je l'avais vue comme je la connaissais.
Voilà, comme vous l'aviez vue,
oui,
vous la connaissiez
la dernière fois,
il y a une douzaine d'années, quoi.
Voilà, voilà.
Ouais. Et à ce moment-là, je veux dire, dans cette journée-là où elle vous est apparue, un peu avant, 2 ou 3 jours avant, vous n'y avez pas repensé,
non,
vous n'en avez pas parlé.
Oh non, franchement, pas du tout. Hein. C'était en dehors de ma vie, si on peut dire ça. Non,
oui.
Franchement, je vous dis, j'étais sur le quai de la gare à attendre ma cousine, là, comme j'allais souvent, parce que elle habite à Metz, donc je fais bien souvent, elle fait la navette,
oui.
Je vais la chercher à la gare et tout.
Mm-hmm.
Et quand elle est descendue du train, elle me dit, oh, qu'est-ce que t'as? Alors, je dis, ben, écoute, j'y viens de m'arriver quelque chose, et je lui ai dit, j'ai vu mon ex-belle-fille devant moi.
Ouais.
Et puis, elle a disparu.
Mm.
Alors, donc, ça m'avait marqué quand même, parce que je vous dis, le train arrivait au même moment, quoi.
Ouais.
Et là, alors, ça me reste dans la tête, ça, j'arrive pas à... Alors, en réfléchissant bien, après, quand ma sœur m'a dit qu'elle l'avait vu au cimetière et tout, enfin, qu'il m'a demandé sur la tombe, je me suis dit, mais... Parce que, bon, ben, au départ... J'avais vu quand même, elle me laissait sa fille quand même pendant les vacances et tout.
Ouais, ouais.
Mais là, elle avait eu un problème avec. Bon, ben, la fille était partie, elle est venue chez moi. Mais malgré tout, bon, c'est sûr que j'ai perdu mon fils, ils étaient en divorce, c'est différent. Mais jusque-là, j'avais jamais rien eu avec elle.
Ouais, vous voyez? Ouais.
Alors, quand elle était, la gamine était petite, sa fille était petite, elle me disait, j'aime mieux la laisser chez vous en vacances que chez ma mère, parce que ma mère, elle la laisse faire tout ce qu'elle veut. Donc,
Et là, pour en revenir à ce moment d'apparition, elle était près, donc, 3 mètres, vous dites.
Oui, donc, elle venait vers moi.
C'était vraiment très près.
Oui.
Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, c'était vraiment elle, quoi.
Ah
c'était...
oui. Ah oui, parce que, vous savez, j'ai l'image dans ma tête, hein.
Oui.
Et c'est ça qui me semble bizarre, parce que, justement, on en aurait parlé avant. Ma sœur m'en aurait parlé comme quoi elle serait venue ou quelque chose. Je dirais, bon, bah, c'est peut-être quelque chose qui m'a travaillé ou quelque chose.
Ouais,
mais non, rien du tout. J'étais loin de penser à ça.
Ouais.
Et là, je vous dis, à 3 mètres, quand même,
Oui, on la reconnaît, on reconnaît quelqu'un. Oui. Oui, oui, oui.
Et puis tout, le temps de me retourner et plus rien.
Oui, c'est une fraction de seconde, quoi. Juste
voilà,
le temps
voilà.
de faire pivoter la tête et elle avait disparu.
Exactement. Oui, ouais. Parce que quand je l'ai vue venir vers moi, j'ai... le sourire, son sourire, tout ce qu'elle avait, quoi, exactement comme je l'ai quitté la dernière fois.
Ouais.
Je me suis retournée, j'ai dit qu'est-ce que je fais, mon Dieu, donc elle est là. Et puis genre, quand même, la moindre des choses, tant pis, il faut que j'y aille, hein, je peux pas laisser. Je me retourne, il n'y a plus personne.
Mmh. Ah ouais. Et vous avez regardé autour de vous, j'imagine.
Ah bah oui, oui, oui.
Ouais. Et personne, rien.
Et personne, et je vous dis, le train est arrivé, que ma cousine a descendu, parce que c'est pas une grande gare, hein, c'est une petite gare, le train arrive là sur le quai et tout, et il y avait presque personne, alors...
Oui, ça aurait été facile de la retrouver si...
Eh ben oui, ouais, c'est
ouais.
ça.
Ouais, ouais. Et puis, en plus, elle vous est apparue telle qu'elle était il y a 12 ans auparavant.
Exactement. Bien souriante à venir vers moi.
Ouais.
Alors que je vous dis, on en aurait parlé d'elle ou quelque chose, ça aurait été tout au début, bon, qu'on parlait souvent de cette histoire et tout ça, j'aurais bon, d'accord. Mais là, non, franchement...
Ouais.
Et je vous dis, ma sœur qui m'a appelé après pour me dire ça, qu'elle l'avait vue, alors là, j'ai fait le rapprochement, je dis, il y a quelque chose qui n'est pas clair.
Renaud Évrard, que pensez-vous de ce qu'a vécu Jeannine?
Il y a une chose que j'ai pas exactement compris, mais bon, je suis peut-être un peu poétieux. Bah, vous dites que vous la voyez à 3 mètres, mais que vous devez vous retourner, finalement. Enfin, c'est-à-dire que vous...
Ben oui, parce que je la vois qui vient vers moi, mais comme vu tout ce qui s'est passé entre-temps, hein, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais vers elle ou je ne veux pas la recevoir? Alors, je me suis retournée un quart de tour pour réfléchir, qu'est-ce que je fais? Parce que là, on n'était pas bien, puisque sa fille était, elle avait mis sa fille dehors, enfin bref.
D'accord, ok.
C'est ça.
Dans ce sens-là. Bon, ben, je vais reprendre un peu vos questions. Vous avez bien analysé, finalement, vous n'étiez pas en train de penser, c'était pas quelque chose que vous travaillez.
Non. Non, ça aurait été au début, ça aurait été il y a 10 ans, d'accord, c'est parce que bon, il y avait des coups de téléphone et tout ça avec sa fille, d'accord. Mais là, non, c'était, tout allait bien, tout était, pas de problème. C'est ça qui me fait...
C'était pas une coïncidence de
Non.
Et puis, en même temps, vous dites, c'est pas les intentions, c'est-à-dire qu'elle-même, là-bas, même si elle se recueille sur la tombe, elle n'a pas forcément l'intention de vous communiquer quelque chose.
Ben, c'est ce que je pense peut-être que si, qu'elle pensait peut-être que c'était sa fin. Elle savait que sa fille était chez moi. Avec le recul, j'ai pensé que ça pouvait dire ça.
6 mois avant, non, je pense pas, non. Renaud, quelle est votre analyse?
Ben, je pense que ce cas éclaire ce qu'il y a d'essentiel finalement dans les phénomènes psy. Et là, dans ce cas, dans une apparition qui a un sens finalement qui lui était inconnu à Jeannine, hein, c'est-à-dire que c'est pas, il y a quelque chose derrière, c'est pas tout à fait absurde, tout à fait anodin. Ce point essentiel, c'est la coïncidence affective. Il s'agit ici d'un affect qui se manifeste sous la forme d'un sourire muet, mais qui vient montrer qu'il y a deux personnes qui ont un travail psychique chacun de leur côté sur une question de deuil qui les fait se rejoindre tous les deux parce que c'est pour l'un le fils pour l'une le fils pour l'autre
l'ex-mari.
Et comme vous dites c'était pas recueillie sur cette tombe donc finalement elle a avancé sur quelque chose la femme la veuve et, elle a avancé et puis je pense que pour Jeannine aussi il y a quelque chose qu'elle a senti qui a pu compléter son deuil parce que finalement si la femme de son fils ne pleure pas alors qu'elle était peut-être d'une certaine façon responsable.
Oui, tout à fait. Elle l'était de toute façon.
Il y a encore quelque chose qui reste finalement qui fait tâche, qui bloquait je pense chez Jeannine. Et là elle n'aurait pas eu ce message parce qu'elle a je pense qu'elle ne l'a pas revue entre-temps, d'après ce qu'elle nous dit. Et donc là, il y a vraiment, il fallait que ça passe quand même. Il fallait que cet affect passe pour que le travail, le sens soit donné tout à plein et qu'il n'y ait pas quelque chose comme ça qui reste faux. Quoi.
Oui. Autrement dit, Jeannine a perçu que de manière inconsciente, et ça a provoqué, donc c'est un phénomène de clairvoyance, c'est-à-dire
ouais.
une espèce d'information que vous avez reçue. Alors, on ne sait pas si votre ex-belle-fille s'est recueillie sur la tombe de votre fils avant ou après qu'elle vous est apparue.
Oui, je sais. C'est dans les mêmes moments, mais exactement, je ne peux pas vous dire quand.
Mais enfin bon, ça, c'est pas trop grave.
La seule
puisque,
chose, ma soeur
attendez,
m'a dit, je sais
Janine,
que c'était un samedi
Janine,
parce que son
oui.
fils était là, mais...
Oui, oui, Janine, laissez-moi terminer. Oui. Ce qui veut dire que, en fait, vous avez, vous, perçu de manière... Alors, on ne sait pas, hein, c'est peut-être de la voyance de votre part,
oui.
peut-être, je ne sais pas, mais vous avez perçu que votre ex-belle-fille en venant se recueillir sur la tombe de votre fils,
oui.
avait fait psychologiquement un chemin, c'est-à-dire peut-être la reconnaissance d'une responsabilité dans ce drame, quelque chose comme ça. Et vous, le fait qu'elle ne reconnaisse pas, puisque vous avez eu des soucis de relation après avec elle,
oui, oui.
Vous l'avez perçu, vous avez perçu qu'elle reconnaissait finalement que, bah, qu'elle avait fait du mal, que quelque chose s'était produit à cause d'elle.
Ouais.
Et vous, vous l'avez senti comme ça, de cette manière. Parce que ça, c'était quelque chose, un blocage chez vous et un blocage aussi chez elle. Et donc, c'est ce que Renaud a voulu dire. C'est-à-dire que là, il y a eu une sorte de dénouement qui s'est produit. Et vous, vous l'avez capté alors. Par quelle
ouais.
manière ? Ça,
ouais,
on ne
ouais,
sait pas.
Ça.
Et ça s'est transformé par cette apparition d'elle
ouais.
souriante
ouais,
venant vers vous.
Vous
voyez, c'est-à-dire que là, il y avait une espèce de, je dirais pas de demande de pardon, mais voilà, j'ai parcouru la distance qui me manquait
oui.
et je reconnais ce qui s'est passé. Et elle venait vers vous avec ce sourire muet, comme disait Renaud.
Oui, oui.
Ça signifie ça, quoi, en fait.
Oui, parce que surtout, je vous dis que l'histoire de sa fille, qu'elle me le, quand elle était plus jeune, elle me l'a confiée. Et là, comme elle l'avait mis sa fille dehors, elle était arrivée chez moi.
Ah ouais,
et
ah
c'est
ouais.
moi qui l'avais, c'est moi qui m'en occupais. Et
oui, tout à fait.
Alors, donc, je pense qu'elle le savait qu'elle était chez moi.
Bien sûr.
Mais
bien
après,
sûr.
Elle a plus de communication avec sa fille, elle ne savait pas où elle était.
Mm-hmm.
Elle savait que c'était chez moi, mais enfin, ce qu'elle faisait, elle ne le savait pas.
Ah ouais.
Donc, j'ai pensé aussi ça, qu'elle me remerciait aussi pour sa fille et tout, parce qu'elle ne l'a pas revue.
Peut-être.
Parce
peut-être.
Que chaque fois, elle l'a mise dehors, chaque
ah
fois
ouais.
qu'elle a voulu aller la revoir.
Ouais.
Il n'a pas voulu l'avoir.
Mais je pense de mon côté, enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Renaud. C'est surtout cette espèce de moment de communion que vous avez vécu comme ça toutes les deux, dans le sens où vous aviez un blocage parce que votre ex-belle-fille n'avait pas reconnu sa responsabilité dans le drame de votre fils, et elle, en allant sur la tombe de votre fils, a fait ce chemin où elle a reconnu sa responsabilité dans le drame de votre fils. Il y a eu cette espèce, vous voyez, d'étincelle d'arc électrique qui s'est produit à ce moment-là entre vous deux.
Parce qu'elle se savait perdue à ce moment-là, de toute façon. Elle savait
peut-être
qu'elle était condamnée.
Aussi,
oui, elle le savait.
Mais ouais. Et donc, voilà, il y a eu ce message de manière, sous forme d'apparition qui vous est arrivé. Quoi.
C'est ce que j'ai pensé, parce que j'écoute souvent vos émissions, et j'ai entendu, c'est ce que...
Voilà donc ce début d'explication en ce qui concerne ce que vous avez vécu, en tout cas, Jérémy.
Oui, oui. Et depuis, j'ai plus rien, mais enfin, ça m'a... Je vous assure que ça choque quand on voit ça.
Ah, ça, j'imagine.
J'avais dit comme ça à mes proches, vraiment, mais t'es sûr. Je dis oui, je suis sûre que c'est surtout que c'était le matin et tout comme ça, sur le quai de la gare, toute contente d'accueillir ma cousine et tout, il faisait beau et tout, c'était le moment de la plage et tout, je pensais pas du tout.
Oui.
Pour ça que je dis, c'est un truc qui m'a choqué, ça a pas pu venir, hein, ça aurait été au début ou quand on en ait parlé ou quelque chose, d'accord, mais là, non.
Ouais. En tout cas, Janine, je vous remercie de nous avoir confié ce témoignage. Et puis, eh ben, j'espère que les explications de Renaud Evrard vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, en tout cas, dans ce que vous avez vécu.
Je pensais aussi, vous voyez, je suis contente que vous m'ayez confirmé.
Instinctivement, vous l'aviez senti, quoi.
Voilà,
vous l'avez compris, vous aussi.
Voilà.
Je vous souhaite une bonne soirée, Janine.
Merci.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Les aventuriers de l'étrange continuent avec, dans quelques instants, un autre témoignage, celui d'Odette, qui a vécu quelque chose d'absolument exceptionnel, à mon sens, un phénomène d'apparition, mais pas uniquement une apparition d'un être vivant, l'apparition également d'une bâtisse. Et ça, c'est assez rare. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec ce soir donc cette soirée spéciale témoignage. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et me laisser vos coordonnées dans la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Ensuite, eh bien, je vous rappellerai et vous passerez dans une des émissions consacrées au témoignage. Tout de suite, le témoignage d'Odette qui nous a appelé. Odette qui habite en Haute-Garonne à Toulouse. Bonsoir Odette.
Bonsoir.
Merci de venir nous rejoindre dans cette émission sur Sud Radio pour nous rapporter une histoire que vous avez vécue avec vos parents. C'était il y a fort longtemps, vous aviez 12-14 ans, je crois.
14 ans.
Voilà, exactement 14 ans. Racontez-nous ça, c'était en Vendée.
En Vendée, oui. Nous sortions le soir, très tard le soir, vers 22 heures. Parce que c'était en plein été, il faisait très très chaud dans la journée, trop chaud pour se promener. Donc nous sortions quand il faisait frais, c'est-à-dire la nuit.
Mmh. Et où alliez-vous vous promener avec vos parents ?
Eh bien, comme c'était en Vendée, au bord de l'océan, on allait nous promener dans les marais salants, à travers les marais salants, sur la route qui traversait les marais.
Oui. Et est-ce qu'il faisait nuit noire, nuit sombre ?
Oh, nuit sombre. On apercevait la route quand même.
Oui. Et là, vous marchiez sur une sorte de sentier,
route,
de petite route
ouais. Sur laquelle passaient de jour les camions transportant le sel.
Ah oui, donc une route assez... Oui, une vraie route, c'était pas un sentier.
Une véritable route, oui, hein, oui, surplomb des marais salants.
C'est-à-dire que à droite comme à gauche, il y avait des marais salants.
Oui, oui.
Dans lesquels on ne peut pas aller se balader parce que il y a de l'eau. Enfin, on ne peut pas marcher dessus. On est d'accord, hein?
Oh, on ne peut pas, non.
Voilà. J'explique bien ça pour la suite de l'histoire que vous êtes en train de nous raconter.
Oui.
Et alors, dites-nous ce qu'il s'est passé.
Alors un soir, mon père marchait devant, moi et ma mère derrière. Et nous nous sommes arrêtés parce que nous avons aperçu un grand hangar que nous n'avions jamais vu, extrêmement éclairé, dans lequel se promenait une jeune religieuse. Mmh. Et mon père a continué à avancer et tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'on ne le suivait plus. Donc il s'est retourné et nous a demandé ce qu'on faisait. Alors on l'a rattrapé et on lui a dit qu'on venait de regarder la religieuse. Oh, il a dit, quelle religieuse, ah bon? Et puis on a continué. Quand on est repassé en revenant, c'est-à-dire qu'on marchait pendant une heure ou deux.
Oui, oui, oui.
Et on n'a plus rien vu, donc on a pensé, la religieuse est allée se coucher.
Elle a éteint, quoi, donc c'est normal qu'on ne voie pas la maison.
Oui, oui. Ouais. Et le lendemain, de nouveau, on a revu la même chose. Et c'est ce soir-là que mon père s'est arrêté et est revenu en arrière pour voir pourquoi on était arrêté de nouveau au même endroit.
Oui.
Et lui, il a dit qu'il ne voyait absolument rien, qu'il n'y avait rien. Il a d'abord cru qu'on se moquait de lui. Et on lui a assuré que non. Et ça s'est reproduit le surlendemain.
Le surlendemain soir, c'est-à-dire trois fois de suite,
oh,
trois soirs de suite.
Trois fois, ça s'est produit plusieurs fois, parce que mon père a fini par remarquer qu'on s'arrêtait toujours au même endroit,
oui,
et que on ne devait peut-être pas plaisanter.
Oui, mais ça s'est reproduit combien de fois? Chaque soir que vous alliez vous promener?
Je ne saurais pas le dire, je ne sais pas moi. Avec la distance, je ne sais plus, mais disons cinq fois, six fois, je ne sais pas.
Oui. Alors,
Finalement, étant donné qu'on a fini par croire mon père, on a proposé de revenir le lendemain en plein jour.
Oui.
Et le lendemain, on est venu en plein jour et on a constaté qu'il n'y avait absolument rien.
Vous étiez sûr d'être au même endroit ?
Oh, ben oui.
Oui.
La route, il n'y avait pas de route de traverse. Hein.
Mm.
Et la route où nous allions nous promener était le prolongement de la route où nous logions.
Oui.
Donc, il n'y avait pas de risque d'erreur de route.
Mm-hmm. Oui, oui. Alors, attendons-nous un petit peu sur ce que vous avez vu. Parce que, je dis vous, il y a vous et votre mère. Hein.
Oui, 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 oui. Parce que ma mère raconte exactement la même chose que moi, donc elle a bien vu ce que je voyais.
Oui. Alors, décrivez-nous un petit peu cette bâtisse. Est-ce que c'était un hangar en bois, en pierre? À quoi est-ce que ça ressemblait?
Oh, c'était comme un immense préau en maçonnerie.
Oui.
C'était extrêmement haut, extrêmement long et large.
Il y avait...
En plein milieu, au plafond, il y avait un lampadaire avec une ampoule électrique, une seule ampoule électrique. Mais après, on a réfléchi que pour une ampoule électrique, un hangar comme ça, c'était vraiment pas possible qu'il soit autant éclairé, qu'il y ait autant de lumière. Qu'une seule ampoule donne autant de lumière.
C'est-à-dire qu'il y avait de la lumière qui sortait par les fenêtres, par...
Il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre. Je me suis même rendu compte qu'il n'y avait pas de porte.
Il
n'y avait que le mur du fond, le mur de droite. Il y avait un pilier à gauche.
Oui.
Et il n'y avait pas de mur à gauche.
Ah oui,
d'accord. Et donc de face, puisque nous voyons ce hangar, il n'y avait pas de mur non plus.
Ah, très bien. Oui, donc c'est vraiment un hangar avec juste un seul côté fermé, quoi, c'est tout.
Deux
côtés fermés,
un
d'accord.
Un angle droit, oui.
Oui, tout à fait. Là, je comprends mieux. Et au milieu de ça, cette bonne sœur...
Oui, elle était jeune, très jeune.
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle était jeune? Vous étiez...
Ah, je voyais bien son visage.
Oui.
Son visage était penché, je la voyais de profil, mais il était évident qu'elle était jeune.
Ouais.
Et jolie.
Et que faisait-elle?
Elle lisait un livre, elle avait dans les mains un livre et elle marchait en lisant le livre.
Ouais.
De long en large.
Mmh. C'est étonnant pour une bonne sœur en plein milieu de la nuit, enfin en plein milieu de la nuit, vers 22h, 23h, dans un hangar ouvert aux quatre vents.
Oui, enfin, il faisait très chaud, hein, même le soir.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Lisant comme ça, en plein milieu d'un marais salant.
Oui.
Et vous en avez discuté avec votre mère pour essayer de voir que vous aperceviez la même chose, précisément?
Ah oui, bah, c'est-à-dire que c'est mon père qui nous a interrogés quand il a fini par penser que peut-être on ne se moquait pas de lui.
Ouais. Oui, j'imagine. Est-ce que lui ne s'est pas moqué de vous, justement, en faisant semblant de ne rien voir?
Oh, je ne pense pas, ça a duré trop longtemps.
Ouais.
Je ne pense pas. Hein.
Mm.
Et puis, j'en ai parlé des années après avec lui, c'est pareil. Il a continué à me dire qu'il n'avait jamais rien vu.
Oui. Et est-ce que vous avez interrogé, je ne sais pas, des anciens dans le village, là où vous étiez?
Oui, pour essayer nos propriétaires, là, parce qu'on avait loué une petite maison qui leur appartenait.
Ouais.
Et ils ont toujours dit qu'il n'y avait jamais rien eu là à leur connaissance. Et eux-mêmes étaient très âgés. Et après, mon père est allé en parler au maire, dont le nom était Monsieur Crochet. Et le maire a montré des plans, du cadastre, tout ça à mon père. Il n'y avait rien.
Il n'y avait jamais eu de préau bâti à cet endroit-là?
Apparemment, oui. Maintenant, si ce préau a existé un jour, ça ne devait pas quand même remonter extrêmement loin, puisqu'il y avait une ampoule électrique.
Ah oui, c'est vrai. Dans votre vision, c'est vrai. Il y avait une ampoule électrique. C'est vrai.
Donc, si ça a vraiment existé un jour...
Ça remonte à 50, 60, 70 ans maximum, quoi.
Eh oui.
Ouais. Effectivement. Et elle était... Vous étiez donc sur cette route, qui, je le rappelle...
Si mon père avait vu quelque chose,
ouais,
ça paraissait tout à fait naturel. Et on n'y aurait pas prêté attention, je pense.
Oui. En revanche, là, il n'y avait que votre mère et vous qui l'avez vu. Et plusieurs fois de suite.
Ce qui nous a paru étrange, qui a attiré bien sûr notre attention, c'est que mon père ne voyait rien. Et qu'on est revenu donc après pour voir, pour vérifier deux jours,
ouais,
et qu'il n'y avait rien.
Ça a dû vous faire un choc à votre mère et vous, non?
Ah oui, un peu.
De vous dire, zut, finalement il n'y a rien. C'est... Et Ce préau, donc, cette sorte de hangar, était loin de la route. Vous ne pouviez pas y aller parce que, je le rappelle encore, il y avait des marais salants deux côtés.
Oui, la route était en surplomb, il y avait un fossé qui était assez profond et c'était impossible d'y aller, oui.
Ouais.
Oui, oui.
Donc c'était à combien de distance de vous à peu près?
Oh, je sais pas.
20 mètres
5 à 10 mètres de la route.
Ah oui, donc pas très loin.
De la route.
Oui. Donc pas très loin, quoi, finalement. Oui. Ce qui explique
que... On voyait tout nettement et ça paraissait tout à fait naturel. Quand elle marchait sur le sol, elle n'avait pas l'air de planer. Hein.
Oui.
Elle n'avait pas l'air de léviter.
Oui, tout à fait. Ouais. Elle était habillée comment?
En blanc, tout en blanc. Mm. Comme une religieuse avec...
La coiffe sur les cheveux.
La coiffe sur la tête, tout. Hein.
Oui.
Surtout des chaussures blanches aussi.
Mm-hmm. Étonnant quand même. Mm. Tout à fait étonnant.
Oui.
Je me tourne donc, ma chère Odette.
Sur le moment, je me demandais ce que ça voulait dire, quoi. Je me suis même demandé si j'avais pas une vision du futur pour moi.
Ah, comme quoi vous alliez devenir bonne sœur.
Oui.
Bon, ce n'est pas une carrière qui vous a tenté.
Non, pas du tout. Ça m'a même inquiété pendant des années.
La crainte de rentrer dans les ordres. Ouais. Renaud Évrard, que pensez-vous de ce qu'a vécu Odette?
Ben, je vais revenir sur la question qu'elle s'est posée à la fin. Enfin, est-ce qu'il y avait justement le thème de la religion ou de ce que vous allez devenir, est-ce que c'était en suspens, est-ce que c'était quelque chose qui vous concernait?
Oh, pas du tout, de votre pas famille? Du tout, parce que ça m'a plutôt paniqué qu'autre chose.
Ouais, donc le fait de voir une religieuse faisant
je n'ai pas du tout été élevée selon une religion. Hein.
Ouais.
D'accord. Mais vous dites que c'était quand vous aviez 14 ans, sans être indiscret, ça remonte à quelle période du coup?
Innocence. Ah si, vous êtes bien indiscret.
Ah oui, je trouve,
et
Renaud, là franchement.
Vous allez automatiquement savoir mon âge.
Bah oui.
1950.
C'est très limite comme question ça, Renaud. Hein.
Pardon.
N'y revenez plus.
J'en ai d'autres. Qui c'est qui voit en premier? Vous avez l'impression de voir en même temps, de vous arrêter, ou est-ce que vous désignez à votre mère, mais vous t'as vu cet hangar ou...
Ah comment non, on s'est arrêté ensemble.
Oui.
Oui. Il y a que mon père qui continuait à marcher, parce qu'il était souvent devant nous.
Oui. Et pourquoi il
n'avait rien vu? Il s'est pas aperçu tout de suite que nous nous étions arrêtés.
Ouais.
Mais vous arrêtez pour quelle raison exactement?
Ben de voir cette religieuse qui marchait.
D'accord. Et vous êtes resté des minutes, combien de temps à la regarder? Enfin, c'était...
Oh, la première fois, je sais pas, 5 minutes.
5 minutes, elle était à 10 mètres de vous, quoi.
Oui.
D'accord. Okay.
Les fois suivantes, alors qu'on n'avait rien vu le jour, on est resté plus longtemps.
Est-ce que vous avez essayé de lui adresser la parole?
Oh, pas du tout. Parce qu'on aurait eu l'impression de la déranger. Elle avait l'air très...
Elle vous a pas remarqué, quoi. Elle a fait aucun signe.
Oh non, absolument pas, non.
Ouais. Bon. C'est extraordinaire comme histoire, quand même, avouez.
Elle était très, très prise par sa lecture, hein.
Ah, ça c'est un détail supplémentaire. Elle était triste par ce qu'elle lisait.
Ah non, prise.
Ah pardon, excusez-moi. D'accord, ok. Excusez-moi, c'est moi qui m'en ai entendu. D'accord. Ouais. Oui, elle était vraiment concentrée là-dessus.
Elle tenait un livre dans ses mains.
Oui.
Dans ses deux mains.
Oui, comme on tient, comme une religieuse tiendrait la Bible pour la lire comme ça,
voilà.
En marchant de long en large. Oui,
voilà, c'est ce que nous avons pensé, que c'était sans doute un livre religieux, oui.
Ouais. Un détail intéressant que vous nous avez précisé, ma chère Odette, c'est qu'il y avait une seule ampoule électrique. Et
c'était le plus extraordinaire, c'était la lumière qu'elle pouvait répandre dans cet immense hangar.
Voilà. Ouais.
Qui était on aurait presque dit qu'il y avait le soleil qui tapait dedans.
C'était disproportionné par rapport à la petitesse de l'ampoule, hein, la lumière qu'il y avait.
C'était une simple ampoule et en fait, on a réalisé que c'était pas possible quoi, qu'elle éclaire autant.
Ouais. Pierre Mathias a une moue vraiment dubitative, genre alors là,
détail qui était impossible.
Oui, qui était vraiment étonnant. Pierre Mathias.
Oui, une moue dubitative. C'est pas évident de mettre quelque chose derrière cette vision.
Ah, ben depuis cette époque, je me pose la question. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce que ça a voulu dire?
Est-ce que, tout simplement, comme vous savez, ces Anglaises qui se sont baladées dans le château de Versailles...
Ah oui, et qui ont vu Marie-Antoinette.
Oui, est-ce que Odette et sa mère n'ont pas tout simplement trébuché dans le temps, comme avait dit Einstein, en parlant de ces deux dames anglaises?
Eh ben peut-être, mais c'est bien pour ça qu'on s'est... Enfin, notamment mon père est allé voir le maire pour demander le cadastre.
Tout à fait, Pierre.
Je vais faire attention de ne pas trébucher, ça fait mal parfois. Mais effectivement, c'est peut-être une vision du passé, peut-être à la manière des sœurs Moberly, peut-être à la manière aussi de ce témoin qu'on avait eu une fois, un Perpignanais, qui nous avait raconté aussi des visions dans une cour.
Quand il était petit, en Algérie, il voyait des gens passer et les autres ne les voyaient pas. Oui, voilà. C'est vrai. Ouais.
Alors, en vous écoutant, je me suis dit que vous avez recherché quelque chose à un endroit précis du cadastre, ce hangar au milieu des marais salants, enfin de ce qui est maintenant marais salants. Je me suis dit peut-être qu'il y avait un couvent pas très loin, dont un préau de ce genre pouvait être une dépendance, mais pas forcément rattachée physiquement au couvent, mais assez éloignée, suffisamment éloignée.
Ou qui appartenait...
Et qui se reflèterait la nuit.
Ah non, Alors, laissez Pierre terminer, vous allez comprendre.
Ah pardon.
Voilà, dans ces conditions, vous auriez pu voir un bâtiment qui a existé, qui aurait existé dans le passé, mais qui n'aurait pas été nécessairement indiqué clairement sur un plan du cadastre.
Oui, parce que c'était juste un préau finalement.
Voilà, quelque chose d'amovible, pas forcément construit en dur fixe. Bon, alors pourquoi pas.
Maintenant, il y avait l'ampoule électrique, quand même.
Bon, cette notion de lumière, c'est sans doute autre chose. Je la vois pas comme un élément physique déterminant. Ouais. C'est pas forcément parce qu'on avait une ampoule là dans ces circonstances que s'il avait existé un préau, il y aurait eu une seule ampoule. Ouais. Il y avoir une part d'interprétation encore. C'est pas vraiment évident.
C'est-à-dire que l'apparition a pu être déformée un peu par celles qui l'ont vue.
Tout à fait. Il peut y avoir, quand on regarde par une fenêtre, il peut y avoir un effet de flou sur les bords. Ça peut aussi peut-être représenter autre chose.
C'était pas flou, hein, c'était bien net.
Non, c'est simplement une image. C'est-à-dire que certains éléments
apparaître. La pierre était en train de faire une métaphore.
Certains éléments vont apparaître ou disparaître en fonction de ce qu'on va... de ce qu'on va être plus à même de ressentir. C'est cet effet de flou, c'est pas un flou physique, mais c'est donc éléments qu'on ne va pas voir parce qu'on n'est pas bien disposé pour les voir. D'un autre côté, ça pourrait représenter quelque chose qui est complètement différent. Et une forte lumière, ça attire l'œil. Ça veut dire, à cet endroit-là, il y a quelque chose de particulier. Alors peut-être que c'était pas, enfin que la vision qui se concrétisait sous cette forme-là, sous la forme d'un hangar, voulait représenter autre chose qui se trouvait à cet endroit-là.
C'est-à-dire, par exemple.
Alors je vais oser. Mais,
oui, lancez-vous, allez-y. Oui,
je sais pas, moi, un objet quelconque qui aurait appartenu à un religieux du coin, qui se serait perdu au milieu de ces marais. Enfin, cet emplacement pouvant représenter quelque chose de significatif pour une sœur donc Odette et sa mère en passant pas loin du coin ressentent ce fait exceptionnel qui est rattaché à ce lieu-là et va le manifester de cette manière-là.
Je décrypte.
Je ne suis pas.
Non mais moi non plus, mais un petit peu. Je crois que j'ai un peu compris.
On fait ça dans l'esprit de l'eau, alors c'est pas forcément
l'esprit retors de Pierre Mathias. si j'ai bien compris votre hypothèse, éventuellement.
Ah, tout à fait, hypothèse. Spéculation.
Là, c'est spéculation. Un objet perdu, un reliquaire, par exemple, un reliquaire perdu, enterré là, il y a fort longtemps, qui existe donc et qui est là quelque part sous le sol à cet endroit-là. Odette et sa maman et son papa passent. Il n'y a que Odette et sa maman qui ont une sensibilité, c'est-à-dire que la maman a a pu la transmettre à Odette, cette sensibilité, puisque c'est sa fille, cette sensibilité alors psychique, comment on ne sait pas, mais elle capte la présence de cet objet symbolique, de cet objet qui a une forte symbolique, et pour elle, ça se traduit toutes les deux par la, leur cerveau, ne sachant pas quoi en faire de cette information, il ne sait pas comment la transformer, eh ben, il la transforme en apparition avec un hangar, une ampoule électrique, une jeune nonne, une novice qui fait les 100 pas en train de lire son bréviaire.
Voilà, tout à fait.
En gros, c'est ça. Vous avez compris, Odette? Odette? Allô? Odette? Est-ce que vous êtes là, ma chère Odette?
Elle a disparu.
Oui, Odette a disparu. Donc, je vais la rappeler tout de suite. Voilà. Nous avons retrouvé Odette. Vous m'entendez bien?
Oui, oui.
Ah, très bien. Est-ce que vous avez entendu mon explication?
Oui, oui, que c'était le souvenir d'un religieux.
Peut-être un reliqueur.
Je l'ai trouvé là.
Voilà. Et,
ça
votre.
C'est plutôt une religieuse, alors, à ce moment-là.
Non, 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 non. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il peut y avoir un objet enterré là, ou, le corps d'un religieux ou d'une religieuse, enterré là, et, votre mère et vous ayant une certaine sensibilité que votre père n'a pas, ou n'avait pas, vous avez senti la présence, de manière inconsciente tout ça, hein, vous avez senti la présence de cette, soit de ce corps, soit de cet objet enterré là, et il s'est transformé votre cerveau pour que vous réussissiez à comprendre, à l'interpréter, a transformé cette information en une vision d'un hangar avec une novice faisant les 100 pas, lisant son bréviaire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette possibilité?
L'accepter, oui.
Oui, au point où on en est, de toute façon, là, oui. C'est tellement extraordinaire ce que vous avez vécu.
Pourquoi, quand on revenait, il n'y avait plus rien aussi? Pourquoi qu'on ne le ressentait pas?
Eh ouais. Alors ça, après, ça fluctue.
C'était l'atmosphère de la nuit. L'idée, c'était la nuit précédente. C'est la nuit, ça peut
être. Non, mais quand on revenait de la promenade, hein, le même soir.
Oui, oui, c'est-à-dire, à l'aller, elle le voyait, et au retour, elle ne le voyait pas. Et ça s'est produit 3 soirs de suite.
Oh, plusieurs, je pense.
Ou 5 soirs de suite, hein. Ouais.
Je dirais 5, 6, je sais pas.
Mais ouais.
Alors, je vais plutôt m'adresser au psychologue pour dire que non. Moi, ça me choque pas quand on le voit uniquement à l'aller, pas au retour. Ça prend une signification et une importance à un moment donné qui n'existe plus au retour. L'esprit est assez.
Peut-être que à l'aller, à chaque fois, il y avait cette surprise et ce frisson, cet arrêt, qu'il n'y avait pas au retour, on était dans une démarche de confirmation.
Oui.
Et d'ailleurs, si vraiment c'était ce phénomène-là, pourquoi la nuit et pourquoi pas le jour, quand ils sont revenus dans le but de trouver l'endroit et de voir s'il y avait quelque chose, là, rien n'apparaissait. Voilà, c'est vraiment peut-être un état d'esprit qui se joint vraiment au moment de la marche, quoi.
Mais en tout cas, c'est ma chère Odette, quoi qu'il en soit, c'est une très très belle aventure et un témoignage extrêmement rare. Renaud, Pierre, c'est la première fois que un témoin nous rapporte une vision, une apparition aussi nette, et deux personnes en même temps en plus. Ça ressemble vraiment à l'aventure de ces deux Anglaises qui se sont perdues dans le temps du jardin du château de Versailles. Ça ressemble un peu à ça.
Elles ont eu plus de chance que moi, quand même. J'aurais préféré avoir leur vision.
et puis elles ont eu quand même la chance de la vérification.
Ou quasi. Tout à fait. En tout cas, ma chère Odette, grand, grand merci à vous de nous avoir rapporté cette très belle histoire, en tout cas.
Je vous en prie. Et puis vous, merci. Pour l'explication.
Ah ben écoutez, c'est avec plaisir. Oui.
Depuis ce temps-là, je me demande.
J'imagine.
Ce qui n'est plus arrivé.
Ce en quoi il en consiste. C'est vrai.
Et oui.
Merci beaucoup, ma chère Odette.
Je vous en prie, c'est avec plaisir.
Une bonne soirée. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit. Sur Sud Radio.
C'est maintenant terminé pour cette émission consacrée au témoignage, au 0826-300-300. Renaud Évrard, merci de m'avoir assisté et de nous avoir apporté vos lumières. De beaux témoignages, hein, ce soir.
Oui, merci à vous. J'avais jamais entendu ça.
C'est très épatant. Oui. Le témoignage d'Odette, notamment le dernier, est absolument fascinant et très rare. Pierre Mathias, nous n'en avons pas eu beaucoup de témoignages de cet ordre-là.
Non, pas beaucoup. De cet ordre-là, ce serait ce témoignage de Perpignan.
Oui. Ça fait partie de deux, trois vraiment témoignages. Là,
deux, je pense. Hein, c'est voilà.
Ça fait pas beaucoup.
Ça fait pas beaucoup.
Rendez-vous sur les sites psyland.org pour retrouver toutes les informations concernant le paranormal et puis les podcasts.
Et puis les podcasts que j'essaierai d'agrémenter aussi avec des documents en référence.
Bon, très bien. Bonne fin de soirée, Pierre.
Bonne soirée.
Merci, Renaud. Bonne fin de soirée.
Au revoir.
Au revoir. On se retrouve en ce qui nous concerne, eh bien, demain avec les aventuriers de l'étrange à partir de 22h45 puisqu'il y a match de rugby. 22h45 jusqu'à minuit. Deux invités, Seymour Bruxelles, vous savez celui qui faisait partie des Inconnus il y a fort longtemps, qui était le quatrième des Inconnus, est devenu thérapeute et il vient d'écrire un livre qui s'intitule Le corps auto-guérisseur aux éditions Dervy. Nous parlerons de souffle vital, nous parlerons d'énergie. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Et puis, je recevrai également Christophe du site internet UFO-Trélunion Tarn, qui lance une opération d'observation qui va avoir lieu du 19 au 22 mai. On en parlera également dans l'émission. Bonne fin de soirée et à demain.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.